Cube Radio. Jonathan Trudeau.
Joe Trudeau. Et Maude Boutet. Maude Boutet. Franchement dit.
Cube Radio.
Bon mercredi, aujourd'hui on est le 27 mai 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit en compagnie de Maude Boutet. Bon mercredi, Maude.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va bien. Fait beau.
Fait-il chaud?
Fait chaud, c'est collant dehors. C'est très collant.
C'est collant, hein?
Humide. L'air est lourd.
C'est très, très, très collant. C'est
ouais.
Très, très, très collant. Chanceux ceux qui ont. Et j'en fais partie, là, qui ont le plaisir d'avoir de la climatisation,
ouais,
d'avoir une piscine, ça rend ça agréable. Mais mon Dieu, qu'on pense aux gens qui l'ont pas facile, à commencer par nos aînés. Là.
Mm-hmm.
Et, tu sais, il y a les aînés dans les CHSLD, évidemment, là, dont on doit se préoccuper, mais de façon générale, il y en a beaucoup des aînés qui sont semi-autonomes, qui demeurent chez eux, qui sont dans des RPA.
Ils n'ont pas ça de l'air climatisé.
Ils n'ont pas nécessairement l'air climatisé. Mm. Tu sais, quand tu t'endures pas, quand tu peux pas, t'as pas nécessairement la possibilité d'aller dans une piscine, en plus, avec la distanciation sociale, les restrictions et tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident, franchement. Autant qu'on se plaint l'hiver qui fait froid, et tu sais qu'on se dit ouais là faudra pas se plaindre quand il va faire 30 degrés, on s'est assez plaint quand il faisait moins 30, mais si tu me donnes le choix entre avoir excessivement chaud, pas là juste une petite chaleur là en costume de bain puis tu peux aller marcher sur le bord de la plage comme dans
mais
c'est ça, tu sais, très très chaud, que t'es pogné à l'intérieur, que c'est humide avec l'humidité qui caractérise nos saisons chaudes, là, si tu as le choix d'avoir extrêmement chaud ou froid. Sérieux, Maude, sans hésitation, je vais choisir d'avoir froid, parce que quand t'as froid, tu peux te réchauffer, tu peux te rajouter des pleurs, tu peux... Je parle pas, évidemment, d'être pogné en bobette dehors à moins 40, là, mais tu sais, mettons, t'as froid, tu te mets un manteau, tu te mets un chandail...
Ouais, c'est plus facile de te réchauffer que de te refroidir, genre un petit pot.
Quand t'as chaud, tu peux pas t'enlever des couches de peau, là.
Non, pas tant. Il faut juste s'endurer. Il y a pas grand-chose d'autre à faire que tu trouves de l'air quelque part.
Je suis vraiment moins tolérant à la chaleur qu'au froid.
Ouais, moi aussi, mais ça dépend de quelle chaleur. Une chaleur humide, c'est pas le fun pantoute, mais une chaleur où c'est l'air est sec, n'importe quand.
Parle-moi pas de cette humidité. Ça, c'est un running gag chez nous depuis des années. Et ma blonde m'a écœuré pour la première fois de la saison avec ça hier, là. Quand je dis que c'est humide.
Oui.
Soit quelqu'un
c'est
qui dit, quand les gens disent que c'est humide, on dirait que c'est humide. Fait que moi, je parle beaucoup de la humidité et je suis allergique à la humidité. La chaleur, je disais que j'en veux pas la chaleur. D'avoir chaud, c'est une chose, mais quand tu dégoûtes parce que c'est humide.
Ouais. Puis quand tu respires puis que t'as l'impression de. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais tu le sens quand tu respires, là, parce que l'air est lourd. Là.
Ah oui, c'est lourd.
C'est humide, puis là, en plus, hey, pour les filles, les cheveux, là, l'humidité. Là.
Ah oui. Oh. Hey, je veux te parler d'une mauvaise blague. Et je parle pas du segment qui a joué juste avant qu'on entre en onde. Là.
Ah non, vas-y.
Non, quelque chose d'autre. Puis, je me rends compte que je suis pas tout seul à être tombé en bas de ma chaise hier. Là. J'ai fait un sympathique gazouillis hier dans la soirée qui a levé ses moyens temps, puis tu te rends compte que, tu sais, quand c'est 99,999% des gens qui sont d'accord et qui sont contre l'orientation du gouvernement, tu te dis, OK, ça se peut-tu que se sont mis un doigt dans l'œil, là?
Ouais.
Un bras, une jambe au complet.
dans l'œil.
La mauvaise blague, c'est celle du Cirque du Soleil, là. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, qui a annoncé hier que le gouvernement déboursait 200 millions US, ce qui représente 276 millions canadiens. Arrêtons de dire 200 millions, là.
Mm-hmm.
On parle pas mal en argent canadien ici. L'argent qui va sortir de nos coffres, ça va être l'argent canadien. C'est 276 millions pour sauver le cul des propriétaires actuels du cirque. Et ça fait des années qu'on parle de la sauvegarde des fleurons du Québec, puis des fleurons, on en a tellement des fleurons, là. On les aime nos fleurons, puis on les chérit, puis François Legault, ça faisait des années qu'il disait, moi quand je vais être premier ministre, là, les fleurons, ils partiront pas du Québec, puis c'est parce que un des problèmes, il y en a plus qu'un, mais un des problèmes avec le Cirque du Soleil, c'est que ce n'est plus une entreprise québécoise. Peut-être qu'on est content là que c'était Guy la Liberté, là, le boomer hippie, là, qui fait des DJ sets là, en ce moment. Là,
pousser du pot sur son île privée.
Oh, oui, c'est ça, qui se fait pousser du pot. Pis tout ça, on était bien fiers de Guy la Liberté. Là. Moi, j'étais deux fois à Vegas dans ma vie, puis d'aller voir un show de Cirque du Soleil, tabarouette, on était contents. Mais c'est plus québécois. Non seulement c'est plus québécois, mais c'est détenu à 55% par une entreprise qui s'appelle TPG, une entreprise américaine qui est située là, qui son holding est aux îles Caïmans. Si c'est géré, là, qu'ils ont des comptes aux îles Caïmans, c'est pas parce que c'est particulièrement propice à la tenue de spectacle du Cirque du Soleil, là.
C'est pas parce qu'il fait beau pis chaud. C'est pas ça.
Non, non, c'est ça. C'est pas juste parce que c'est pas trop humide là-bas, là. Non, non, il y a des raisons à ça. Et l'autre, un autre 25%, parce que bon, il y a le Cirque, la Caisse de dépôt qui a une participation, mais c'est Fosun. C'est un fonds chinois. Donc, en ce moment, là, on le sent. On a vraiment envie d'aider la Chine. D'aider la Chine qui nous envoie des masques qui sont pas bons. D'aider la Chine qui aurait caché de l'information sur la pandémie. Puis, je suis bien content, moi, qu'on envoie des millions de Québécois là, à un fonds chinois pour sauver le cul du Cirque du Soleil. Quelle excellente nouvelle. Puis, je vais continuer parce qu'il y a plein de choses. Pierre Fitzgibbon était très, très, très content de dire que dans le deal, dans cet excellent deal, le gouvernement du Québec se verrait presque de manière incontournable, là, sans rentrer dans tous les détails, d'ailleurs, il n'en a pas donné tant que ça des détails, le ministre Fitzgibbon, mais le gouvernement du Québec pourra se porter acquéreur du Cirque du Soleil. Si le fonds veut vendre, mettons qu'on décide de vendre, malgré le fait qu'on leur a donné 276 millions, on a comme un premier droit de refus, genre, non, c'est nous autres, le gouvernement du Québec qui va l'acheter. Vraiment? On veut se lancer dans le business du cirque? C'est quoi, on va nationaliser le Cirque du Soleil? On n'a pas d'autre chat à fouetter que de gérer un cirque, mais c'est quoi cette absurdité-là?
Puis j'ai beaucoup aimé le point que Caroline Saint-Hilaire a amené ce matin avec Benoît Dutrisac de dire... On en a de l'argent là, pour les grands, les gros, puis tu sais, pour toutes les raisons en plus que tu viens d'énumérer, on se pose des questions. Mais les petits artisans d'ici, là, les artistes qui sont vraiment maintenant, en ce moment, au Québec, puis qui attendent d'avoir, entre autres, une date pour recommencer leurs activités parce qu'ils n'ont même pas ça. On n'est même pas capable de leur donner une date. Et après ça, on s'en va donner comme des millions et des millions au Cirque du Soleil, alors qu'ici, là, on en a, là. Tu sais, je veux dire, je me promène dans n'importe quel quartier de Montréal, puis je peux aller cogner à la porte d'un artiste qui dit « Hey, oui, moi, j'en prendrais de l'aide », et qu'il n'y en a pas.
C'est ça, parce c'est que je veux bien qu'on pense aux...
sur ce point-là, en tout cas, je trouve.
Je veux bien qu'on pense aux artisans du cirque, là.
Oui, il y a ça,
c'est une bonne chose, mais c'est rendu une affaire internationale, le cirque, là.
Oui.
Tu sais, je serais curieux de savoir c'est quoi le pourcentage des artisans du cirque qui sont des Québécois, là. Tu sais, même Dominique Champagne n'est plus là, là. Tu sais, Dominique Champagne fait des pactes au lieu de faire des spectacles du cirque maintenant, même lui, il n'est plus là-dedans. Là. Fait que, tu sais, c'est qui qu'on va aider alors qu'on pourrait aider des gens? Puis, je m'excuse, je vais faire un beau gros sophisme, là. Puis, des fois, j'aime pas ça quand on compare des pommes avec des oranges, mais il y a des fois où tu dis, la comparaison, on n'a pas le choix de la faire, là. Hier, Marguerite Blais se réjouissait en chambre de dire que il donnait la permission aux utilisateurs, aux résidents des résidences des CHSLD de se procurer un air climatisé portatif, de se le procurer comme dans
payer
sans
sa
ton
poche.
Portefeuille, puis va t'en acheter, parce que nous autres, comme État, on est deux doigts dans le nez, on n'est pas capable d'organiser la climatisation de nos CHSLD, puis à chaque année, on est comme pris de court quand il y a une canicule. Mais pendant ce temps-là, on va aller pitcher 276 millions à un fonds américain aux îles Caïmans, puis à un fonds chinois pour sauver le cul du cirque. Alors qu'en plus, t'as Guy Laliberté qui dit « Hey, by the way, je pense que je vais peut-être le racheter. » Il y a Pierre-Carl Péladeau, Québécois, qui dit « Nous, on serait peut-être intéressés. » Qu'est-ce que le gouvernement a à voir là-dedans? Scram! Allez-vous-en! C'est le fun, le Cirque du Soleil. Là. C'est reconnu mondialement, là, mais on a d'autres priorités. Et l'autre chose, puis je terminerai là-dessus, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, dans la section argent, très intéressant de voir la chronologie, hein. De la vente du dernier 10% restant des actions de Guy Laliberté à la Caisse de dépôt, les négociations qui ont eu cours à l'automne 2019, donc à la fin de l'année dernière. Et le 23 janvier 2020, Cirque du Soleil annulait tous ses spectacles en Chine en raison d'un nouveau coronavirus, tiens. Ça, c'est le 23 janvier. Or, c'est le 14 février, trois semaines plus tard, que la Caisse a finalisé la transaction et a acheté les derniers 10% du cirque de Guy Laliberté. Normalement, quand tu as un achat, tu fais ce qu'on appelle un due diligence, là, une vérification diligente. Voir s'il n'y a pas des choses que, oups, ça, t'as pas vu, finalement, ça pourrait-tu baisser la valeur de l'investissement, rendre ça plus risqué. Il y a une évaluation, une gestion du risque qui est faite de ton investissement. Il n'y a pas personne à la caisse de dépôt qui a levé une petite lumière en disant « Whoop, hey, on parle de coronavirus depuis un bout en Chine, là. » Et là, on est en train de suspendre tous les spectacles du cirque en Chine. C'est quoi la suite des choses? Est-ce que c'est une bonne affaire pour nous?
C'est une bonne idée, oui.
Non, ils ont foncé la tête basse puis ont quand même acheté les 10%. D'ailleurs, on ne sait pas combien ils ont payé. Là, on peut-tu le savoir? Tu sais, je trouve... C'est le même combat qu'avec SNC-Lavalin. Là. SNC-Lavalin, il faut sauver ça, il faut sauver ça. C'est une firme qui est corrompue, qui a été condamnée à l'international, mais il faut sauver ça à tout prix. À la limite, même SNC-Lavalin, on pouvait dire qu'il y a des centaines, quelques milliers d'emplois ici au Québec et ailleurs au Canada. Mais le Cirque du Soleil, en quoi le gouvernement du Québec a d'affaires à cracher 276 millions pour sauver le cul d'un fonds chinois, d'un fonds américain aux îles Caïmans, en nous disant « Oui, mais la bonne nouvelle, savez-vous, c'est quoi? C'est qu'on va probablement devenir acquéreur. » C'est d'un ridicule sans nom. Je suis sincèrement scandalisé par cette nouvelle-là.
Ben oui. Puis, penses-tu que si ça n'avait pas été de la pandémie, est-ce qu'on aurait eu le même discours? Tu penses?
Bonne question.
On le saura jamais, là, mais à chaque fois qu'on a laissé passer des entreprises qui sont nées ici, peu importe qui ait un intérêt ou autre, que ce soit plus entre nos mains, il y a toujours eu une espèce de « il faut garder ça chez nous ». Parce que sinon, tu le fais reprocher. Fait que, je sais pas, je me pose la question bien ouverte.
Puis tu sais, c'est quoi l'avenir du cirque aussi? Là? De façon générale, les spectacles, aussi. L'entertainment, on se pose des questions, mais est-ce que l'âge d'or du cirque, là, avec justement ce que le Cirque du Soleil avait amené, là, de réinventer cette activité-là, ça a été incroyable ce qu'on a vécu. On en est rendu. Est-ce qu'on peut passer une autre étape où on va encore se réinventer? Peut-être. Sauf que moi, je veux que ce soit des investisseurs privés qui le prennent, ce risque-là.
Mm-hmm.
Je veux que ce soit Québécois, puis notre patron, M. Pelladeau. Je veux que ce soit Guy Laliberté qui dit « Ah, oh, c'est-tu quoi, on va peut-être remettre des billes là-dedans » ou quelqu'un d'autre. Pas le gouvernement du Québec, cibole. Alors voilà, Cirque du Soleil, 276 millions qu'on flaube là-dedans. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Bougez pas, on va revenir dans quelques instants.
Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
On comprend là, que la canicule qui a cours en ce moment, ça arrive tôt dans l'année.
Mm-hmm.
Ça arrive tôt. Normalement, au mois de mai, des canicules comme celle-là, on n'a pas nécessairement. N'empêche que il faut avoir le réflexe de se préparer. Et là, le gouvernement du Québec ne peut pas dire « Ah ben vous savez, tu sais, on l'a pas vu venir, on n'a pas été alarmé. » Non, non, parce qu'on a appris hier, notamment à LCN, puis il y a un article très intéressant également à ce sujet-là dans la presse plus ce matin. Il y a des gens là qui ont levé le drapeau, qui ont dit « Attendez, là, on est en train de prendre du retard, il faut agir rapidement. » Malheureusement, cette lettre-là, elle est restée lettre morte. On va en discuter donc avec Luc Despaty, qui est président de l'entreprise Loufroy, qu'on joint au bout du fil. Monsieur Despaty, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, votre entreprise se décrit comme étant le plus important installateur de climatiseurs dans les CHSLD au Québec. Comment on en arrive à être niché comme ça? Est-ce que c'est une expertise qu'on développe? C'est à force d'en faire, de contact en contact? Comment vous expliquez le fait que, pour vous, c'est devenu une partie importante de votre activité?
Je pense que c'est un peu des deux. Vous savez, les CHLD, les CIUS, c'est pas une grosse partie. Je n'en avais parlé hier, ça représente peut-être 2% de notre chiffre d'affaires.
OK.
Mais la business comme telle, c'est une business de niche, puis c'est quand même une grande entreprise. Ici, on est quand même 150 employés.
OK. Dites-moi, lorsque vous procédez à l'installation de matériel de climatisation dans des CHSLD, est-ce qu'on parle d'unités, tu sais, indépendantes pour les chambres qui sont louées, par exemple, par les usagers, ou ce sont des systèmes que vous installez aux frais des CHSLD là, pour climatiser de façon générale, par exemple, un édifice?
C'est les deux. Écoutez, ici, on a trois divisions, mais on a la division industrielle, commerciale, qui ont installé des gros appareils. Ça peut être aussi pour on installe, donner l'exemple, l'hôpital Sacré-Cœur, Jean Talon, présentement, on a des gros systèmes de climatisation installés. Et ça peut être quand même des unités de petits refroidissements pour des chambres individuelles ou ça peut être des salles communes, des choses comme ça. Il y a une variété de tellement de sortes d'appareils aujourd'hui, c'est assez hallucinant.
Et là, on va revenir, presque deux mois en arrière, M. Despatie, le Québec est mis sur pause, la pandémie qui débarque ici à quelque part au mois de mars. Et là, assez rapidement, vous vous rendez compte que ça risque d'avoir une incidence sur votre calendrier usuel, là, sur le rythme avec lequel vous êtes en mesure d'installer année après année les aires climatisées dans les CHSLD. Le problème, là, vous l'avez vu poindre à quel moment?
Ben, nous autres, on l'a vu. Moi, personnellement, écoutez, ça fait 35 ans que je suis dans ce business-là. Ça fait 35 ans que je m'occupe des centres, que ce soit des centres privés, que ce soit des centres publics. On l'a vu venir, nous autres, dès la pandémie, dès qu'on a vu les fermetures, on a dit ça va être un problème pour nous, pour donner notre service aux aînés. On le savait dès le début, puis on a levé le flag, puis on a essayé de commencer, les employés ici ont commencé à rejoindre les concernés dans les CIUS, les concernés au gouvernement. Puis ça fait déjà deux mois de ça.
Parce que le problème à la base, là, le problème, c'est que les usines, les entrepôts étaient fermés. Donc, même si vous vouliez procéder aux installations, vous ne pouviez pas, dans le fond. Vous étiez limité dans votre capacité à travailler carrément.
Effectivement. Nous autres, comme tels, le COVID, ben, ça s'est fermé toute la province au complet. Et nous autres, même si on était quand même service essentiel, on travaillait dans les hôpitaux pour les urgences, les centres de dépistage, tous nous autres qui ont fait ça. On était quand même service essentiel. On avait le droit de rentrer dans les centres, quand même d'installer. Le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était que les centres eux-mêmes avaient aucune directive à savoir s'ils avaient le droit de les installer.
OK, donc le 7 avril, vous avez acheminé une lettre à la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais. Qu'est-ce que vous disiez essentiellement dans cette lettre-là?
Essentiellement, ce qu'on disait, c'est qu'on voulait s'assurer qu'on était service essentiel, puis qu'il fallait commencer à regarder comment est-ce qu'on allait s'y prendre. Nous autres, dans cette période-là, c'était clair pour nous qu'on allait installer encore de la climatisation. C'était pas discuté encore qu'il n'y en aurait pas. Par la suite de tout ça, on a eu des courriels nous disant qu'il y a des centres qui disaient qu'il n'y allait avoir aucune acclimatisation. Alors là, après ça, l'ambiguïté est venue. Tout le monde attendait, tout le monde se lançait la balle dans les centres, dans les CIUS, dans tout, puis finalement, regardez, ça donne ce que ça donne. Tout d'un coup, il fait 35 degrés, puis là, tout le monde se réveille.
Moi, je suis tombé...
J'ai parlé personnellement à un conseiller politique, puis je lui ai averti des conséquences, parce que je le sais, en 2018, en 2017, là, avec les grandes canicules, comment ça fait les nouvelles. Puis je l'ai averti.
À quel moment vous avez parlé à ce conseiller politique-là? Deux semaines, en deux puis trois semaines
que j'ai parlé. Puis je l'avais averti qu'il n'y a personne qui bouge, ça va faire les nouvelles. Et le voilà, on est rendu là.
Mais M. Despatie, je trouve cette information-là, elle est encore plus traumatisante, là, j'ai envie de dire, parce que t'sais, j'ai travaillé au gouvernement, là, j'ai travaillé en politique, je peux comprendre que des fois, bon, les correspondances sont tellement nombreuses qu'une lettre envoyée peut tomber dans une craque, mais vous êtes revenu à la charge, là. Il y a eu d'autres communications, vous avez insisté sur ce que le message que vous aviez envoyé le 7 avril, et malgré ça, ils sont restés les bras croisés.
Oui, effectivement, même, écoutez, là, ça fait 35 ans que je suis en business, j'ai entendu des choses. Mais ce que je me suis fait répondre, là, j'ai trouvé ça vraiment un manque de civisme. Excusez. De la façon que nos pauvres aînés, là, ils ont passé trois mois enfermés dans des places qui sont en train de mourir. Là, présentement, on est juste en train de les faire cuire puis de mourir un petit peu plus vite. J'étais pas content, là. C'était pas. La discussion que j'ai eue avec lui, je la trouvais vraiment là, pour un conseiller politique, là, me faire répondre que simplement là, qu'il y en a qui allaient mourir, puis ça allait chialer, qu'il fasse chaud ou qu'il allait chialer pour le COVID. Fait.
Ben voyons, il ne vous a pas dit ça.
Ben oui. C'était pas intéressant comme discussion.
Que de toute façon, il y a des gens qui allaient mourir.
C'est comme mis sur le petit douleur à côté.
C'est parce que pendant ce temps-là, les autorités, le message principal qu'on entendait du premier ministre, de la ministre de la Santé, du docteur Arruda, de la ministre Blais, les fois où elle a parlé, c'était qu'on fallait retenir les leçons, que plus jamais des choses comme ça arriveraient. Mais dans la gestion en temps réel, les leçons, elles n'étaient pas tirées, même qu'on a ignoré des signaux d'alarme. C'était épouvantable.
Oui, effectivement. C'est les aînés qui vont souffrir.
Là, vous en êtes rendu où dans votre progression? J'imagine que le travail, en plus, les moins faciles à faire avec les restrictions, la distanciation, les mesures d'hygiène, etc. Par rapport, mettons, à pareille date l'an dernier, dans votre processus d'installation, vous en êtes où?
On est un mois en retard. À ce date-ci, pareil l'année passée, tout est installé dans les CIUS. Les CHLD, excusez. Fait que de base, tout était fait. Quasiment. Il y a des exceptions, bien entendu, mais de base, tout était quasiment fini.
On le sent, M. Despatie, que ça vient vous chercher. Puis je lisais, vous avez fait une déclaration qui est raide, mais qui en même temps illustre votre désarroi. Là. Vous avez dit que vos parents, vous les avez perdus récemment, puis vous êtes content qu'il n'y ait pas à vivre dans des circonstances comme celle-là. Là.
Vous savez, la compagnie de Loup-Froid, là, ça fait pas loin de 50 ans d'existence. Et puis, moi, j'ai travaillé, quand j'étais étudiant à l'université, à installer des airs climatisés dans les centres pour les personnes âgées. Puis, il y a 25 ans, je trouvais ça déplorable. Puis, aujourd'hui, je trouve ça encore pire. Et puis, de la façon que on les maltraite, je trouve ça déplorable. Écoutez, là, c'était quelque chose. Je comprends qu'il y a des décisions qui c'était difficile à prendre, mais il faut que quelqu'un prenne des décisions. Puis là, on est rendu là. Ça me tient beaucoup à cœur. Nous autres, c'est quand même des clients, nous autres. Là. C'est du monde qu'on prend soin. C'est du monde qu'on... c'est pas la première année. C'est année après année, on rentre dans ces centres-là. Et quand on voit qu'on est encore rendu au même point, on s'en vient sur le 1er juin où tout devrait être fini. On est dans des canicules. C'est la catastrophe, c'est la folie. Puis là, on est rendu que nos temps d'installation sont rendus au 20 juin. Ça augure pas bien.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour... Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite, M. Despatie? Là, bon, on entend parler de commission d'enquête, de rapport à la protectrice du citoyen ou quoi que ce soit. Vous, là, de votre point de vue, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit faire des commissions, trouver des coupables? Qu'est-ce que vous souhaitez?
Mais je pense que c'est pas une question de trouver des coupables. Je suis pas persuadé qu'il y a des coupables là-dedans. Il y a juste un petit peu d'incompétence puis un peu de nonchalance. Je pense qu'il faut que ça avance, tout simplement, qu'on règle le problème une fois pour tout, pour nos aînés, tout simplement, qu'on leur donne quand même un peu de confort, un peu de joie de vivre. Là. C'est pas une question de trouver quelqu'un de coupable. Il faut vraiment admettre qu'il y a un gros problème. Si on veut régler le problème, il faut admettre qu'il y en a un. On va commencer par admettre qu'il y a un gros problème. Là, après ça, on va le régler.
Absolument. On va vous souhaiter bonne chance pour la suite des choses. Une grosse période qui s'en vient pour vous. Vous devez sentir une pression. Veux pas, là. Il y a des employés des fois qui rentrent pas ou vous la sentez, cette pression-là?
Bien, le président, moi, ça, depuis le COVID, je travaille 16 jours semaine, 14 heures par jour. Tout le monde essaye d'en donner plus. Puis quand on voit surtout avec les canicules dans les centres, ben là, les gars, ils essayent. Mais c'est toujours plus difficile. Hein, quand on travaille avec une avalanche dans le derrière, c'est un petit peu plus stressant.
Dernière question à ma conseil, M. Despatie. Dites-moi, des fois, lorsqu'une personne sort sur la place publique et fait part de son insatisfaction, c'est drôle, mais là, soudainement, le téléphone se met à sonner, puis là, quelqu'un au ministère, au gouvernement qui appelle, puis qui dit « Ah oui, mais vous savez, on travaillait là-dessus. » Avez-vous des communications depuis, les 24-48 dernières heures avec les représentants
Absolument.
Du gouvernement?
Absolument. Je peux vous dire que hier matin, il y a eu les appels de conférence avec les CHLD, les CIUS, puis tout s'est réglé très rapidement. Les bons de commande sont rentrés hier. Coïncidence.
Ben, Luc Despatie, vous êtes président de l'entreprise Loup-Froid. Merci pour votre travail. Merci d'avoir témoigné, puis bonne chance pour la suite.
Ça fait plaisir, il faut voir.
Merci. Donc, Luc Despatie de l'entreprise Loup-Froid. Je c'est drôle, hein, parce qu'il y a comme une gradation. Là. Hier, je regardais le reportage à LCN, M. Despatie qui disait on a lancé, on avait levé le flingue, tout ça, puis tu ben, ça n'a aucun bon sens. Là, mm-hmm. Là, matin, je lis en plus son témoignage dans la presse, on apprend d'autres éléments, tu dis, ben voyons donc, c'est... Et là, en lui parlant, encore là, on va plus loin, on apprend qu'au téléphone, un conseiller politique, la ministre des aînés, qui disait,
va mourir pareil.
Ça va mourir pareil, là.
Ah! Pardon? C'est pas parce que c'est un aîné que ça vit contre moi. C'est pas parce que, oui, la chaleur fait des décès chaque année qu'on peut pas éviter qu'il y en ait moins puis que c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a la COVID qu'il y a des décès que ça... Tu sais, J'ai de la misère à comme expliquer ce que ça m'a fait en dedans d'entendre ça, de dire, toi, là, ta Lulu, là, qui a survécu à la COVID, là, ben, si elle était morte, ça n'aurait pas été grave, dans le fond.
Ouais, c'est ça.
Hey! Deux minutes, là.
C'est drôle que tu fasses référence à ma grand-maman Lulu, que j'ai l'impression que le Québec au entier connaît depuis quelques jours.
Oui.
Je raconte juste un petit fait. Dans ma chronique de samedi dans le journal, samedi qui vient, je vais rendre hommage à ma grand-maman.
Okay.
C'était supposé d'être ma chronique de ce matin dans le journal, mais là, en parlant avec les patrons au journal, je me suis rendu compte que ils m'ont expliqué que samedi, je veux pas vendre de punch, mais on va parler des survivants de la COVID, et ma chronique s'appliquait bien à ça, fait que j'ai dit, parfois, on va attendre à samedi. Donc, samedi, je vais rendre hommage à ma grand-maman, et là, depuis hier après-midi, en regardant la canicule, puis tout ça, puis en voyant c'est quoi la situation, puis ce matin dans le journal, on nous montre le plan des CHSLD, à quel point il n'y en a pas de chambres qui sont climatisées. Évidemment, j'ai regardé le CHSLD de grand-maman, tu sais, on oublie ça, l'air climatisé. Fait que là, je me suis dit, on va-tu se rendre jusqu'à la publication de ma chronique samedi? Tu sais, je sais pas, là.
Ouais.
À 94 ans, là, ma grand-maman, elle vient de sortir d'un combat contre la COVID. Puis je parle d'elle parce que ça vient rendre la chose plus concrète, sa réalité, c'est celle de milliers de milliers d'autres aînés dans les CHSLD.
Il y a combien d'autres enfants, petits-enfants qui se posent la même question de dire « Colin n'a pas la COVID, mais il va faire chaud en Montadie, puis je peux même pas m'y rendre nécessairement pour essayer d'aider, pour essayer de faire quelque chose, pour en installer une moi-même, une air clim. » Fait que c'est juste de voir, là, tu parlais là, de la double page dans le journal de ce matin, là, juste de voir ça, là, sur papier de même, puis de voir des zéros partout. CHSLD Petite Nation, zéro. Vallée de la Lièvre, zéro.
Ouais. Sans faire de mauvais jeu de mots, zéro. Ça donne froid dans le dos.
Oui, absolument.
Et de savoir qu'il y a des gens qui, en plus, pour cette année, là, je comprends, là, on peut pas tout régler, mais juste pour cette année, pour au moins qu'on soit capable de faire le minimum, c'est-à-dire ce qu'on fait d'habitude, là, les autres années, qu'il y a un entrepreneur comme Luc Despaty qui a à plus d'une reprise, a levé le drapeau en disant « Hey, faut qu'on agisse, là. Donnez-nous les coups des franges parce que on va frapper un mur. » Il l'a dit, ça va se ramasser dans les médias. Il avait raison. Malheureusement, là, je suis certain qu'il est pas content d'avoir eu raison. Mais Luc Despaty avait raison. Pendant ce temps-là, il s'est fait dire que c'est pas si grave que ça. C'est vraiment, vraiment pathétique. Bougez pas, on fait une pause, on revient.
Vous écoutez
Franchement dit.
On va changer les idées en parlant un peu d'histoire avec notre chroniqueur, l'historien Denis Anger, que je rejoins au bout du fil. Salut, Denis.
Allô, Jonathan. Bien oui, la chaleur, il fait chaud à petit Jésus de COVID-19, ma foi.
Vraiment.
C'est pas d'hier, hein. C'était comme ça, pire encore dans l'ancien temps, Jonathan.
Mais en même temps, je pensais à notre sujet de ce matin, puis je me dis, me souviens dans une chronique à l'époque où j'étais un auditeur de tes chroniques sur une autre station de radio, tu disais des fois, tu sais, il y a rien de nouveau sous le soleil, là. Tu sais, qu'on a l'impression que l'histoire est toujours en train de se répéter, ou en tout cas avec des similitudes assez impressionnantes. Et là, on se rend compte qu'il y a 150 ans, encore là, il y a des similitudes entre ce qui se passait à ce moment-là à Montréal et notre réalité actuelle.
Ouais, ben l'idée, c'est qu'on a un peu rouvert les régions du Québec. Hein. On sait que, notamment, le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, c'était fermé à la Pocatière. On ne pouvait pas aller à Rivière-du-Loup, donc c'est ouvert depuis la fin de semaine. Et là, ben il y avait des angoisses. Est-ce que les Montréalais porteurs de microbes, de virus vont venir envahir les régions? Je nous ramène 150 ans avant. Bon, on est au 19e siècle. Montréal, à ce moment-là, c'est 60 000 habitants. Québec, à peu près 40 000. C'est les deux grandes villes du Canada français. Et on vit des conditions absolument exécrables, épouvantables. L'hygiène est épouvantable. Les épidémies se succèdent une après l'autre. Par exemple, en 1820, à Québec, il y a une épidémie de choléra qui fait 8 000 morts. 8 000 sur une population qui est à 32 000. Imaginez comment c'est épouvantable. En 47, il va y avoir une épidémie de typhus. Évidemment, les villes sont surpeuplées. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'aqueduc, il n'y a pas d'égout. On est encore avec la bécosse, hein, la fosse creusée en arrière de la maison. On s'accumule, on s'entasse. Donc, les gens à Québec et aussi beaucoup à Montréal qui ont les moyens vont se dire, il faut qu'on échappe à cette ville où toutes les maladies sont là. À l'époque, on appelle ça des miasmes. M-I-A-S-M-E, c'est une espèce de particules dans l'air qui, semble-t-il, apportent les maladies, le choléra et le typhus. Donc, ils vont avoir tendance à se réfugier là où il fait plus bon, hein, où l'air est plus clair, et ils vont devenir des maniaques de ce qu'on appelle à l'époque la thalassothérapie, la balnéothérapie, les bains de mer. Hein. L'influence des Anglais est importante au Canada au 19e siècle. Donc, en Angleterre, par exemple, à Brighton, dès le début du 19e siècle, il y a les bains de mer. Hein. Les gens vont en Quetelon, qui est une ville aussi pourrie que peut l'être Montréal ou Québec, et ils s'en vont à la mer. Donc, ils vont faire ça ici, et ils vont où? Ils vont dans les régions. Ils vont dans les régions parce que on y trouve... Ben oui, tiens, ben on s'en va où? D'abord, on va découvrir un endroit qui s'appelle Kamouraska, sur la rive sud, un peu dans le Bas-Saint-Laurent, où c'est surtout l'élite canadienne-française catholique qui va là, les seigneurs et les médecins et les petits entrepreneurs canadiens-français vont sur Kamouraska. Un peu plus loin, à Kakuna. Ben, Kakuna, ça devient, comment dire, là, un peu l'équivalent de Old Orchard ou Kennebunk pour la bourgeoisie canadienne-anglaise. À Kakuna, on trouve les grandes familles. Les Molson sont là. La famille Allen. La famille Allen, c'est des propriétaires de lignes de transport par bateau, les lignes Allen. Ils vont s'installer là. D'ailleurs, M. Allen va construire un château qu'on appelle le Château Montrose, qui existe encore à Kakuna, qui a été transformé par les Capucins en un centre d'accueil communautaire. C'est immense, ces choses-là. Donc, ils vont là. Johnny McDonald, le premier ministre du Canada à l'époque de la Confédération, va pendant bien des années être propriétaire d'une villa à Fraserville. Fraserville, ça, c'est le nom que portait à l'époque Rivière-du-Loup. Donc, ils vont par là-bas. Ils y vont d'abord en bateau, des petits bateaux à vapeur qui partent de Montréal. Et ensuite, ben, avec la construction des chemins de fer, l'avantage de Rivière-du-Loup, Kakuna, Kamouraska, Notre-Dame-du-Portage, c'est à l'intersection de deux grandes lignes. Il y a la première ligne ferroviaire qui arrive de Halifax, les Maritimes, qui s'appelle l'Intercolonial, arrive là, et la première ligne qui part de Montréal, qui s'appelle le Grand Tronc, arrive là. Donc, les gens partent avec leur famille, armes, enfants, bagages, domestiques à l'occasion, et ils vont s'installer là-bas. Les gens sont hyper heureux sur la côte sud parce que, évidemment, ils accueillent des gens qui viennent de Montréal, qui arrivent avec la famille, qui viennent s'installer et qui vont loger là pendant presque tout l'été. Ils arrivent habituellement un peu avant la Saint-Jean-Baptiste et ils repartent au mois de septembre et ils vont créer un peu l'industrie touristique puisqu'ils sont là, ils achètent des maisons, construisent des maisons. Ou souvent, ce qu'ils font, ils vont louer la maison de l'habitat. Donc, les habitants là-bas ont des maisons de ferme et ils vont presque tous construire ce qu'on appelle un fourni, F-O-U-R-N-I-L. Je sais pas si on prononce fourni ou fournil, mais c'est une petite cabane qu'on construit à proximité de la maison où la famille Trudeau, la famille Angers, la famille Bouchard, qui est propriétaire de la maison, ils louent la maison principale et ils vont s'entasser, et vraiment s'entasser, parce que les familles sont nombreuses. À l'époque, les fermiers, les agriculteurs, ils ont 8, 10, 12 enfants, dans le fourni pendant la durée de la location. Donc, ça va être ça pendant longtemps et ça va contribuer largement au développement de cette grande région du Québec. Il viendra ensuite l'autre.
Denis, juste une question, là. Mettons les habitants de Montréal qui s'en allaient à Fraserville, la rivière du Loup, là. Aujourd'hui, tu peux partir, tu te mets de la bonne musique en streaming, tu mets ça sur le cruise control, tu te fais un petit lunch, puis ça va prendre, je sais pas moi, 6 heures. Il y a 150 ans, ça devait être une autre dynamique.
Hein? C'était une expédition, c'était au minimum 2 jours. On embarquait au quai de l'horloge sur un petit bateau à vapeur, et là, on descendait tranquillement Saint-Laurent. Donc, ça prenait entre 36 et 40 ans. Parfois, il y avait des capitaines de bateaux qui voulaient arriver les premiers. Il y a un exemple en 1840. Il y a deux bateaux qui sont en course entre Montréal et Québec. Donc, ils reviennent avec ces gens-là. Et c'est des bateaux à la vapeur. Donc, on met du charbon, on fait chauffer. On traque le feu dans le bateau. Il s'appelle le Saint-Laurent, le bateau. Il va faire sombrer. Il va sombrer un peu là où se trouve le pont de Québec. Il y avait presque 350 personnes à bord. Donc, il y a d'abord le voyage en bateau à vapeur. Et quelques années plus tard, évidemment, en chemin de fer, la grosse locomotive à vapeur qui vous prend de Montréal, vous traversez le tout nouveau pont Victoria, qui est le premier pont construit entre Montréal et la Rive-Sud, hein, en 1859. Et là, encore deux jours pour aller à la résidence. Ce qui explique pourquoi que les gens qui y vont, ils vont pas pour une fin de semaine, hein, ils vont pour toute la saison. Papa, maman, papa va revenir à l'occasion à Montréal faire des affaires ou revenir à Québec, mais la famille va rester là. Et souvent, ben, il y aura des gens qui vont y prendre racine. Hein. Finalement, on rencontre la fille du voisin, puis on se fait une romance à Rivière-du-Loup, puis ça crée des nouvelles alliances entre Montréalais anglophones et Québécois francophones et catholiques dans le Bas-Saint-Laurent. Viendra ensuite la grande époque de Charlevoix. Charlevoix est de l'autre côté. C'est à peu près le même genre de plaisir que d'aller se baigner. C'est drôle, Jonathan, parce que on veut se baigner dans l'eau de mer. Mais je sais pas si vous pouvez imaginer la température de l'eau de mer à Rivière-du-Loup, genre le 3 juillet, ça doit être autour de presque le point de congélation. Mais les gens y vont, il faut dire que les maillots de bain qu'on porte à l'époque sont assez longs. Hein. La défense veut que les femmes ne puissent se baigner en présence des hommes, d'une part, et que deuxièmement, pour se baigner, elles se mettent ce qu'on appelle une robe de bain. Donc, c'est essentiellement une robe en laine, noire, parfois rayée, qui va couvrir des cheveux au cou et du cou au poignet. Donc, il ne faut pas laisser aucune place à l'imagination. Assez curieusement, les hommes, eux, ils ont le droit de se baigner tout nu. Quand même, hein? C'était autre temps, autre mœurs. Mais c'est vraiment ça, Jonathan, comment dire, un élément fondateur dans l'expansion, dans le développement des liens commerciaux entre la métropole et ses régions. Quand on fera d'abord Bas-Saint-Laurent, on aura Rivière-du-Loup, et éventuellement, ils vont aller jusqu'à Métis. Hein? Il y a encore un endroit qui s'appelle Métis Rock, qui est encore là, qui est encore un endroit très, très fréquenté par les gens de Montréal. Ils vont aller ensuite jusqu'à la pointe Percé-Gaspé. De l'autre côté, Charlevoix, avec la construction du petit chemin de fer. D'ailleurs, l'un des financiers les plus importants du Canada de la fin du 19e siècle s'appelle Sir Rodolphe Forget. Il est ami avec McDonald's, il est ami avec Mercier, et c'est un entrepreneur qui va faire dans le chemin de fer. Et c'est lui qui va construire le petit chemin de fer de Charlevoix, qui va bien marcher, qui va permettre aux Américains de découvrir la fameuse baie de Murray Bay, la Malbaie, Cap Alegre. Et Forgette, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, il y avait, à l'époque où il y avait encore des activités estivales, un assez beau festival de musique classique au Domaine Forgette. Le Domaine Forgette, c'est ce qui reste de cette espèce d'immense propriété qui était celle de Sir Rodolphe Forgette, qui, en passant, était le père de Thérèse Casgrain. Ça vous dit quelque chose, Thérèse Casgrain?
Ben oui.
La fameuse suffragette, hein? Ben, elle était née Thérèse Forgette. Donc, c'était la fille d'un financier qui est devenu, dans son engagement politique, quelqu'un plus à gauche, revendicateur et socialisant. Son pauvre papa devait, comment dire, se retourner dans sa tombe. Mais c'est ça. À l'époque, les gens des régions trouvaient ça bien agréable de voir les gens de Montréal qui arrivaient avec la trolley, avec la smala, avec tout ça. Et espérons que cette année, elles auront en souvenir de cette belle époque les bras grands ouverts.
Ben oui.
Le plus ouvert possible.
Et une fois qu'on aura passé là, cette espèce de méfiance qui, je pense, déjà est en train de s'atténuer, là, de recevoir les gens de la région de Montréal et tout ça, je trouve ça intéressant parce que je boucle la boucle avec ce que je disais au début de l'entretien, on disait, ben dans le fond, il y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on voit, c'est que dans la vie aussi, tu sais, il y a des cycles, il y a des modes, et peut-être que cette pandémie-là aura fait en sorte que le réflexe qu'on avait perdu de bien connaître notre territoire, notre Québec, avant de vouloir aller aux quatre coins de la planète, ça revient, là, tu sais. On va peut-être que les gens de Montréal, ils vont avoir envie d'aller à Rivière-du-Loup, d'aller à Kakuna, d'aller à Gaspé, d'aller en Abitibi. Et tant mieux. Si ça aura eu ça de bien, ben, au moins, ce sera ça.
C'est ça. Vous avez parfaitement raison. Moi, je rêve d'aller aux Îles-de-la-Madeleine et j'ai tellement hâte que ce soit ouvert. Donc, il y aura des gens qui vont redécouvrir que le Québec, finalement, c'est soit, on paye en dollars canadiens, on n'a pas de taux de change à négocier, il n'y a pas de frontières à franchir, et il y a encore de fort belles choses à voir. Donc, c'est clair que pour cette année, l'an prochain, pensons québécois d'abord.
Voilà, merci Denis, toujours un plaisir, on se reparle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Jonathan. Bonne qualité.
Merci. Bye-bye. Merci, salut Denis. Hey, bougez pas, retour la pause. Notre collègue Vincent Dessureau va débarquer en studio. Le fameux rapport de l'armée sur l'état des CHSLD au Québec a été rendu public par le gouvernement du Québec au cours des dernières minutes. Il l'a reçu hier soir du gouvernement fédéral. On voulait agir rapidement comme le gouvernement de l'Ontario a fait. Donc Vincent, qui a eu le temps de feuilleter ça, va nous donner les grandes lignes. Au retour de la pause, bougez pas.
Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1-877-827-2346.
Donc hier, la publication du rapport de l'armée canadienne sur la situation des CHSLD en Ontario a semé l'émoi. Vraiment des récits d'horreur. Et là, on savait qu'il y avait un rapport en préparation concernant les CHSLD du Québec. On n'aura pas eu à attendre bien longtemps. Celui-ci a été transmis au gouvernement québécois hier soir. Ils ont procédé à la publication de ce rapport-là au cours des dernières minutes. Et notre collègue Vincent Dessureau, puis toi aussi, Maude, tu as eu l'occasion de le survoler là, rapidement. Vous avez regardé ça. Vincent qui est en studio avec nous. Salut, Dess.
Salut.
Bon, évidemment, la première question, je vais de façon générale, là, mais quand on regarde ce qui était contenu dans le rapport touchant l'Ontario, on se demandait est-ce que les constats seraient aussi graves en ce qui concerne le Québec. Est-ce que c'est le cas ou non?
Non, c'est deux mondes, là, les deux rapports. Par contre, il faut dire que dans le rapport qu'on a au Québec, puis il faut le rapport, là, on l'a survolé, c'est sorti à peu près 10 minutes, c'est 60 pages, mais c'est qu'on n'a pas nécessairement d'histoire précise là, de dire, ah, cette dame-là, on l'a laissée dans sa couche pendant tant de jours. Alors, quand on va parler plus généralement de effet direct sur l'hygiène des résidents. Donc là, on peut quand même présumer que l'histoire derrière ça est pas super belle, mais c'est un peu mieux dit, par contre. Et ce qu'il y a de central, je pense, dans ce rapport-là, c'est que les militaires sont à peu près dans... Pour à peu près tous les CHSLD disent du moment qu'on est arrivé à maintenant, il y a eu une énorme amélioration, stabilisation à peu près partout du manque d'employés. Alors, amélioration aussi du baisse du taux d'infection dans les CHSLD. Donc, en général, on voit que ça s'améliore beaucoup. Ce qui est noté pas mal partout, c'est le point central, l'absentéisme, là, généralisé à peu près partout. Donc, manque de personnel, des préposés aux bénéficiaires également qui sont complètement débordés, de sorte que ça affecte, dans certains cas, l'hygiène des résidents. C'est à peu près ce qu'on retrouve un peu partout là, dans ce rapport qui, donc, fait état là, de... C'est quand même 1350 militaires... 1050 qui œuvrent directement dans 25 CHSLD. Alors, on est allé CHSLD par CHSLD. Je te sors quelques exemples là, de ce qu'on retrouve là-dedans comme fait un peu plus intéressant. Donc, CHSLD Val des Arbres, par exemple, où là, on nous donne toujours le taux d'infection quand on est arrivé, le taux d'infection quand fait en date, disons, dans les derniers jours, où la plupart des endroits, c'est assez stable. C'est le cas dans ce CHSLD où on explique donc manque de personnel, absentéisme général important, effet sur l'hygiène, observer une augmentation une situation qui s'améliore effectivement, le retour de plusieurs employés, des mesures de prévention qui sont en place, ça c'est le cas à peu près typique de plusieurs CHSLD, donc un bilan assez bon. Là où c'est un peu moins bon, entre autres, centre de soins prolongés Grace Dart, qu'on retrouve là sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. On dit donc là, on a subi une deuxième vague hausse significative de contamination après l'arrivée des militaires, observé un nombre insuffisant de personnel, nombre insuffisant de préposés aux bénéficiaires, des familles de proches aidants qui viennent prêter main forte, mais manque d'équipement aussi, de sorte que la prévention est difficile, problématique majeure au niveau du port de l'équipement, bris de sécurité dans certains cas. Alors on a dû vraiment faire des agents COVID là, qui sont allés donner des conseils sur comment installer l'équipement correctement et manque de médecins pour les constats de décès. Alors, très difficile de pouvoir faire le suivi là, après un décès à cet endroit.
Il y a, sur ce point-là, là, parce que Maude m'avait envoyé cet extrait-là pendant la pause, il y a quelque chose d'assez... j'ai envie de dire problématique, frappant, alarmant du fait que l'armée dit dans son rapport, on s'est rendu compte là, que ça marchait pas sur place. Donc, nous-mêmes, on a fait des cliniques pour enseigner comment utiliser les équipements de protection.
Oui.
Comment ça se fait que c'est l'armée
et des qui affiches, était supposée là, de faire ça? Des affiches de zone jaune, de zone rouge, c'est l'armée là, qui est allée faire tout ça, alors que c'est effectivement... Alors, eux sont supposés se faire dire un peu quoi faire et pas l'inverse.
Exactement.
Le fait qu'il y a des civils aussi, on mentionne, qui reprenaient leurs collègues de la santé pour dire « Ah ben ton équipement de protection, tu le portes peut-être pas de la bonne façon » ou ça aussi, ça m'a un peu frappé.
Un des CHSLD quand même notable, Vigie Mont-Royal, où lorsque les militaires sont arrivés, c'était 84% des résidents infectés. Le pourcentage qui se situe présentement, on dit aux alentours de 100%. Alors, c'est 273 pensionnaires là-bas. Et une des problématiques à cet endroit que j'ai pas noté ailleurs, c'est disparition de l'équipement. Là. Donc, des masques, là, entre autres 20 boîtes de masques chirurgicaux qui sont introuvables. Même une livraison de narcotiques qui semble avoir disparu. Et l'approvisionnement dans les unités est difficile. Alors, à cet endroit-là, c'est vol de masques ou perte, disons, sans trop savoir pourquoi, de masques. On retrouve centre d'hébergement de Saint-Laurent, par exemple, où on note des conflits entre les employés civils réguliers et ceux qui proviennent des autres centres. Des conflits qui portent sur le nombre d'heures de travail, la gestion de l'établissement, au point où un coordonnateur a menacé d'arrêter de travailler si des infirmières supplémentaires n'étaient pas embauchées. On dit des employés qui s'absentaient sans préavis pendant leur quart de travail. Alors, vraiment une situation très tendue au niveau des employés, mais j'ai pas vu ça dans d'autres CHSLD. Là, ça semblait être assez unique à celui-là. CHSLD Auclair, où on explique qu'avant l'arrivée, manque de personnel, encore là, absentéisme général important, manque de préposés qui a causé des problèmes d'hygiène, et on explique d'hygiène évidemment pour les pensionnaires, et on dit la pandémie semble avoir durement frappé la direction du CHSLD en contaminant une grande partie du personnel. L'ampleur de la crise a fait en sorte que beaucoup de bonnes pratiques ont été abandonnées afin de pallier aux problématiques les plus urgentes. Alors on a fait un plan d'action et ça s'améliore, mais encore là on voit pas d'histoire d'horreur, mais c'est juste parce que c'est mieux dit là, dans le rapport où on dit qu'on a abandonner les bonnes pratiques là, pour pallier au plus urgent, donc parce qu'on est complètement débordé, c'est ce qu'on voit à peu près partout. Peut-être t'ajouter là, CHSLD Vigie Reine-Élisabeth, 150 résidents, où là on parle de pénurie au niveau des membres, donc du personnel médical, taux d'absence très élevé, surtout le week-end, pénurie au niveau des préposés aux bénéficiaires, et les troupes donc qui vont donner un coup de main là-bas. Mais un peu partout, comme je le disais, ça s'améliore, c'est le rapport des forces qui semble affirmer, ça va beaucoup mieux que ça allait il y a quelques semaines.
Puis par rapport aux employés qui sont présents sur place, là, ce qui revient beaucoup, c'est qu'on remarque que les employés réguliers commencent à revenir au travail, mais que même à ça, les ratios ne peuvent pas être respectés, puis que leur nombre, il demeure insuffisant par rapport à ce que l'établissement aurait comme norme. Donc, tu sais, on voit qu'il y a comme un espèce, moi, je le vois comme ça, en tout cas, je l'interprète de cette façon-là, de dire, ben les militaires, on n'est pas prêts à partir, là. Si on part maintenant, ouais, ben ça ne fonctionnera pas, malgré que là, les gens reviennent, qui se sentent plus encadrés, qui sentent que là, c'est, il y a comme le contrôle est repris, donc ça donne quasiment le goût de retourner travailler. Mais qu'encore là, ben il faudrait pas quitter tout de suite parce que c'est un petit château de cartes qui pourrait s'effondrer.
J'ai noté un seul CHSLD où l'armée dit, ben là, nous, on est vraiment rendu en extra, là. Tout est comblé. Okay. Nous, on est vraiment appelés aux besoins. Un seul sur les 25. Et on dit, le besoin criant, c'est pour les employés avec formation médicale. Ouais. Elle dit, nous, ça permet de dégager du temps pour le personnel formé pour faire leur travail, mais c'est vraiment ça qu'on cherche, alors qu'on a fait entrer beaucoup de proches aidants, des gens bénévoles, mais ultimement, ce qu'on a besoin, c'est des employés avec une formation médicale.
Maud, tu as vu un commentaire sûrement très, très, très pertinent là, sur Twitter par rapport au temps, ouais, que ça a pris à faire un rapport comme celui-là.
Écoute, je peux même pas nommer l'utilisatrice, je l'ai perdue dans la vague de tweets, mais une femme qui se demande pourquoi l'armée, elle est capable de pondre un rapport après 3 semaines, puis le rapport, c'est pas un petit rapport, il y a 60 pages, c'est très détaillé. Pourquoi au gouvernement, on n'est pas foutu d'en avoir, puis que ça prend des mois, que ça prend des années? Je trouve c'est que la question est légitime.
L'armée, là, une de leurs plus grandes qualités, là, un prérequis, en fait, c'est d'être opérationnel. T'es pas dans les théories, dans le si.
Non.
T'es sur le terrain, t'agis, tu poses un objectif, tu poses une action, point A, point B. Ils sont bons là-dedans, mais mon Dieu, on n'est pas capable de faire ça au gouvernement. J'entendais la protectrice du citoyen avec Benoît Dutrisac ce matin, qui disait, là, c'est quoi, 12, 18 mois, je pense, avec un rapport d'étape à l'automne. Benoît qui soulignait avec justesse que la commission Laurent sur le sort de nos jeunes enfants laissés à eux-mêmes avec la DPJ. Ça fait un an qu'est décédée la jeune fille de Granby, là, et on n'a toujours pas de rapport. Je comprends qu'il y a eu des rapports d'étape, mais mon Dieu que c'est long. T'sais. Puis pendant ce temps-là, les choses changent pas. Pendant ce temps-là, les climatiseurs s'installent pas.
Parce que là, avec ce rapport-là, on peut l'utiliser puis faire s'améliorer tout de suite.
Ben oui.
D'ailleurs, peut-être dire, parce que dans le rapport, il y a quand même un mot disant « Nos observations sont factuelles et sont faites avec un respect énorme envers nos partenaires civils qui travaillent dans le milieu de la santé. Ces héros de tous les métiers vivent des défis considérables depuis maintenant plus de 2 mois en fournissant des soins essentiels à nos aînés, rappelant que les CHSLD sont avant tout des milieux de vie et pas des hôpitaux, mais qu'on leur a donné évidemment une surcharge de travail incroyable. » Donc, il y a un respect quand même là, dans ce rapport-là pour le travail partout dans le milieu là, de ces héros. C'est les militaires eux-mêmes qui les appellent comme ça.
Je vais vous poser une petite question, Cole, de type cynisme 101. On nous avait annoncé la publication du rapport pour 10 heures. Finalement, il a été publié autour de quoi? 10h35 à peu près. Si vous aviez à tenter une explication, à savoir pourquoi finalement il y a eu un retard de 35 minutes pour une simple publication de communiqué de presse, est-ce que vous oseriez tenter une réponse?
Ben, est-ce qu'on était dans la période de questions, là?
Oh, comme que tu es perspicace, Vincent!
Oui, en pleine comme période de questions.
Non, mais c'est vrai.
Ben, Colin, que ça tombe bien.
J'ai travaillé en politique, là. Est-ce que tu veux, cette semaine, passer 2 périodes de questions au complet sur le rapport ou en passer une, alors qu'il reste seulement demain comme période de questions? Bon, ben, en le publiant à 10h35, vous étiez rendu à quoi? À 5 minutes de la fin de la période de questions.
C'était facile.
Ce qui pouvait bien faire.
Pendant ce temps-là, sur Twitter, l'entourage de la CAQ qui n'hésite pas à dire ben, voici le rapport. Transparence. C'est notre mot d'ordre.
En même temps, je comprends qu'ils l'ont reçu hier soir, là, donc ils veulent probablement se préparer, mais il y avait sûrement un peu de stratégie politique et de communication politique là-dedans. Hey, merci Vincent, on se reparle plus tard. Salut.
Vous écoutez
Franchement dit.
Alors, si tout va bien aujourd'hui, si Dame Nature, Dame Météo collabore le 27 mai pourrait être une journée vraiment historique, journée à laquelle on assisterait au premier vol habité vers l'espace, donc au départ des États-Unis. Ça fait 9 ans que c'est pas arrivé. C'est la capsule Crew Dragon et les astronautes Doug Early et Bob Behnken qui seront installés au sommet de la fusée Falcon 9 de la compagnie SpaceX qui devrait s'envoler à 16h33 de Cap Canaveral en Floride. C'est un événement historique, je le disais, que des millions de personnes vont surveiller.
Et là, on a envie d'en parler.
Ben, on va aborder la question de la météo assurément avec notre invité, mais tu sais, tu dis, qui de mieux pour en parler que quelqu'un qui a déjà vécu ce stress-là, qui a été dans l'espace il y a pas très longtemps de ça. On est très privilégié. C'est la deuxième fois qu'on a l'occasion de lui parler dans Franchement dit. L'astronaute David de Saint-Jacques qui se joint à nous. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
Oui, bonjour, Jonathan. Comment ça va?
Ça va très bien, ça va très bien. Dites-moi, vous, en tant qu'astronaute, est-ce que vous êtes fébrile? C'est pas vous exactement qui le vivez, mais c'est des collègues que vous avez qui vont être dans cette capsule-là. Comment vous vous sentez aujourd'hui?
Ben, c'est plus que des collègues, hein. C'est des amis de longue date. C'est les pères d'amis de mes enfants. C'est le conjoint d'amis de ma conjointe, c'est des anciens mentors, c'est vraiment, on est tous très très proches de cet équipage-là.
OK. Je me mets à la place des gens qui nous écoutent et moi je suis un maniaque de tout ce qui touche l'exploration de l'espace, donc assurément je suis excité, mais il y en a qui se disent ben en quoi c'est un grand jour, parce que dans le fond les États-Unis vont refaire ce qu'ils arrivaient à faire assez fréquemment dans les années 70 avec les capsules Apollo.
Oui, alors je comprends pourquoi les gens peuvent penser ça, mais quand des choses assez nouvelles, le fait que ce soit seulement une compagnie privée qui a eu le plus de liberté qu'avant, ça va être toujours des compagnies privées derrière les vols spatiaux. Hein. Les vols spatiaux étaient fabriqués par Boeing, les fusées lunaires par Lockheed, mais toujours sous le guidage très, très serré de l'Iran dans la zone. Parce que c'est différent. On leur a donné seulement des grandes contraintes générales, mais c'est eux qui ont trouvé des solutions. Donc, c'est très innovateur comme concept. Il y a plein de choses nouvelles là-dedans, notamment le fait que c'est pratiquement entièrement soit recyclable, soit réutilisable. Ça permet de manière naturelle de rendre ça beaucoup moins cher. Et puis, c'est dans l'air du temps de faire ça réutilisable. Ensuite, ben, évidemment, pour les États-Unis, vous pouvez imaginer, c'est un grand moment de notre grande anticipation de fierté d'enfin retrouver la capacité d'envoyer eux-mêmes des gens dans l'espace sans dépendre de leur collaboration avec les Russes, qui est un peu la seule manière de se rendre depuis presque 10 ans.
Il y a des gens qui peuvent être peut-être surpris de voir qu'on a opté pour le bon vieux concept de la capsule, une espèce de version 2.0 de la capsule Apollo, après avoir vécu l'époque des navettes, qui a eu des heures de gloire, des heures un peu plus sombres. Pourquoi on a abandonné l'idée, par exemple, d'avoir des navettes? Est-ce que c'est pour la réutilisation? C'est une question de sécurité. Qu'est-ce qui est derrière cette logique-là?
Oui, alors les capsules, effectivement, c'est un... il y a eu le même débat dans les années 50 et 60 au début du plan spatial, qu'elle devrait être... c'est très robuste. C'est pas aussi confortable qu'un véhicule spatial ailé. Hein, pour le retour, évidemment, on vit sur une planète avec de l'atmosphère, alors pourquoi pas utiliser un avion, dans le fond? C'est moins confortable pour le retour, mais c'est très, très robuste, une capsule. C'est pour ça que ça a été choisi à l'époque, c'est pour ça que c'est choisi maintenant. Faut pas oublier aussi que c'est un véhicule qui est très spécifique, c'est pour aller à la station spatiale, et donc ça, le concept de la fusée de la capsule est bien éprouvé. Donc, c'était là, mais il y a eu d'autres concepts qui ont été avancés. Il y a d'autres concepts qui sont de mini-navettes spatiales, vous avez peut-être vu ça, là, qui sont encore sur les planches à dessin. Moi, personnellement, je pense que tout ce qu'on habite sur une planète avec une atmosphère, éventuellement, on va finir par revenir à un vaisseau spatial ailé. Mais les deux concepts fonctionnent. C'est certainement un design très, très, très éprouvé et très robuste.
Bon, on a vu les changements, là, ceux qui s'y sont intéressés, les changements dans la capsule Crew Dragon, notamment le design, l'accessibilité à une technologie là hors du commun. Mais je veux que vous nous parliez un peu du rôle de la fusée Falcon 9 qui a été mis au point par SpaceX. Moi, je trouve que c'est une réussite technologique absolument incroyable d'avoir été en mesure de mettre au point une fusée qui est capable de retourner au sol sur une plateforme marine, d'être réutilisée. C'est un défi incroyables qui sont réalisés.
Ah oui, quel pari technologique qu'ils ont pris. Ça n'a pas été facile. Hein? Il y a eu plusieurs échecs initialement, mais récemment, vraiment un tout succès fantastique. Donc, c'est une grosse amélioration, c'est un gros apport en avant technologique, puis aussi pour la durabilité, pour la comment je veux dire, rendre les vols spatiaux plus plausibles à long terme, plus économiques, ça c'est vraiment une prouesse technologique. Et je me souviens encore, c'était tellement excitant la première fois que ça a fonctionné. Les bras, c'est incroyable. Déjà envoyer une fusée, c'est pas facile, hein. Vous imaginez tenir un balai. Quand tu tenais un balai en équilibre dans le fond de votre main, essayer de tenir debout, ben c'est ça le défi, là. Ça veut juste tomber. Mais la faire revenir de l'espace comme ça, debout, c'est vraiment une prouesse de robotique essentiellement et d'intégration de système extraordinaire.
Absolument. Dites-moi, M. Saint-Jean, que toute mission vers l'espace comporte son lot de risques. On en avait discuté ensemble au mois de novembre. Évidemment, le risque zéro, il n'existe pas, mais tout vise à minimiser le risque. Là, c'est la première fois avec cette technologie-là qu'on envoie des humains dans l'espace. Et mon collègue Vincent Dessureau nous parlait un peu plus tôt cette semaine d'un article paru dans le Business Insider qui fait état d'un rapport de la NASA qui évalue les risques, là. Et on parlait d'un risque, par exemple, de 1 sur 276 que les astronautes puissent carrément perdre la vie, ou de 1 sur 60 que la mission puisse échouer. Derrière ces chiffres-là, il y a des humains. Vous, en tant qu'astronaute, comment vous analysez ces statistiques-là, ces chiffres-là? Qu'est-ce qui est un risque acceptable ou non acceptable?
Ben, alors, l'espace, effectivement, c'est dangereux, on le sait. Puis ce qu'on essaie de faire toujours, c'est de faire un équilibre de risques, faire des échanges de risques, trouver ce qui est raisonnable comme risque. Et puis après ça, on le sent dans une petite boîte, puis on fait notre mieux pour qu'il n'y ait pas d'accident. Moi-même, quand je suis parti en fusée Soyouz, bon, c'est des risques statistiques, actuariels, mais c'est du même ordre de grandeur. Là, c'est de l'ordre de 10% ou 2, le risque, mais on vient avec, et puis on n'y pense plus. Une fois qu'on a analysé le risque et puis qu'on a pensé à tout ce qu'on ferait en cas d'urgence, c'est certainement ce qu'on fait de notre entraînement. Hein. On pratique un petit peu les procédures normales quand ça va bien, mais on fait surtout pratiquer ce qu'on fait quand ça allait mal. Et on se creuse la tête, on a un peu une pensée négative sur les astronautes. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce que je ferais ci? Qu'est-ce que je ferais comme ça? Et une fois qu'on a fait le tour, tout ce qu'on peut imaginer comme situation, comme problème, là, à ce moment-là, on espère que tout va aller bien. Et puis, c'est la meilleure manière, si on veut, de se... libérer de l'anxiété, de la peur, c'est de se préparer. Une fois qu'on sait qu'on est préparé, qu'on a tout fait ce qu'on pouvait, qu'on a minimisé les risques, là, on peut y aller le cœur plus léger. Et c'est pas les astronautes qui font ça, évidemment, c'est des milliers de contrôleurs, d'ingénieurs, de scientifiques qui sont derrière ça. C'est une quantité phénoménale de travail, de jus de cerveau, comme on dit en québécois, qui est derrière les lancements. Et c'est, si on veut, le début de la saison des vols d'essai. Parce qu'il n'y a pas juste SpaceX, ça peut y avoir les premiers vols de Boeing, et puis après ça, les premiers vols de Orion. Et on entre dans une nouvelle phase là, de vols d'essai encore, de première. C'est pas la dernière première manière de parler.
Qu'est-ce que ça peut changer pour vous personnellement, M. Saint-Jacques? Parce que bon, il y a toute la question là, des tours qui viennent. Le Canada qui a des tours selon son niveau de participation. Mais là, le fait que les États-Unis, si tout se passe bien, vont reprendre cette capacité-là d'envoyer des capsules à partir des États-Unis, est-ce que ça fait en sorte que le Canada va voir son tour venir plus souvent? À Claire, est-ce que vous pourriez éventuellement vous-même retourner dans l'espace?
Ah, ça, c'est la boule de cristal. Mais ce qui est certain, c'est que, oui, effectivement, c'est comme une coopérative, les vols spatiaux. Chaque pays reçoit les vols et de la participation des expériences scientifiques en proportion de sa contribution. Donc, plus il y a de vols globalement, ben, plus le Canada en a, et plus le Japon en a, et plus l'Europe en a, et plus les Américains en ont, tout le monde en a. Donc, la même fraction du gâteau, mais la part est plus grosse, c'est le gâteau est plus gros. Donc, oui, c'est un peu ce que tout le monde espère pour Jeremy, Josh et Jenny, les trois autres astronautes canadiens qui n'ont pas encore une mission, puissent enfin y aller. Moi, je suis en arrière de la file d'attente, c'est que mon rôle surtout, c'est de les supporter eux dans les missions à venir. Donc ça, c'est un côté qui est plus important pour le son canadien. L'autre côté, c'est que plus personnellement, c'est que cette capsule-là qui est sur la rampe de lancement, c'est la petite sœur de la capsule Demo 1 que j'ai accueillie à bord il y a à peu près un an et demi. On a eu une capsule prototype avec seulement un mannequin à l'intérieur. Le privilège d'être celui qui l'a guidé dans la station, puis qui l'a accueilli, qui a ouvert le sas, qui a pratiqué les procédures là, en microgravité. Donc, et puis après ça, le Canada va participer aussi aux opérations. On va l'inspecter avant son départ grâce à Canadarm. C'est lui qui va être un peu responsable de certifier que c'est correct pour le retour. Donc, le Canada est quand même impliqué dans cette mission-là à plusieurs égards.
Juste avant qu'on cesse, M. Saint-Jean, que la météo, là, je regardais le dernier rapport, on parlait de 50% de chances que le lancement ait lieu cet après-midi. J'imagine vous suivez ça de très près. Êtes-vous optimiste ou quand on est à 50% de chance à quelques heures du lancement, ça regarde plutôt mal?
Ouais, c'est ça, le temps de la météo en Floride de l'été, hein, avec des orages, un peu de surprise, mais ils vont attendre jusqu'à la dernière seconde avant de prendre la décision. Et puis, il suffit qu'il y ait une bonne fenêtre autour du moment du lancement. On vous souviendrait peut-être le lancement de Jules Payette il y a près de 10 ans, là, où ça a été reporté des semaines. On est prêt à ça, c'est tout. On a fait tout ce qu'on pouvait. Nous, les êtres humains, maintenant, on attend la collaboration de Dame Nature, mais ils vont attendre jusqu'à la dernière seconde avant de pour prendre la décision là. Et puis tout le monde se croise les doigts et les orteils.
Confinement oblige, comment vous allez regarder ça cet après-midi?
On va regarder ça sur Internet, comme tout le monde, depuis notre maison en banlieue de Houston. Il y a très peu de gens là, qui sont physiquement au Cap Canaveral. Il y a notamment des officiels, là, des VIP, comme on dit, de très haut niveau du gouvernement, les gens de NASA, un peu la famille très, très proche seulement qui est là. Mais la plupart des invités, tout le monde est à distance. Voilà, c'est un lancement à la mode COVID-19.
Voilà. David Saint-Jacques, merci vraiment. Ça a été un immense privilège, un honneur d'avoir l'occasion de vous reparler. Puis on va suivre ça tous ensemble cet après-midi.
Merci beaucoup, c'était très agréable. Et puis, alors, manquez pas ça, c'est à 4h33.
Franchement dit.
Jonathan Trudeau.
Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1877 827 2346. Cube Radio. Cube Radio.
Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Comment ça va, Steph?
Ça va très bien. Vous autres, comment ça va?
Ça va bien. Écoute, je ris parce que je veux pas te mettre de pression, mais passer après David Saint-Jacques, c'est quand même une grosse commande.
Parle-toi pas.
Ouais, c'est vrai qu'on a un CV semblable, c'est certain, mais bon.
Le jeu de mots était pas voulu, mais j'ai vraiment fait un mauvais
jeu de
mots.
C'est quoi ton jeu de mots?
J'ai dit plante-toi pas. Stéphane Plante.
Plante, oh mon Dieu.
Ah, mon Dieu.
Je m'en suis même pas rendu compte, mais
je suis absolument pas. Je suis absolument pas inquiet. C'était pas toujours intéressant de discuter de musique avec toi. Et là, tu reviens sur un truc que j'adore, là, les biopics. D'ailleurs, je suis en train d'écouter un documentaire sur Whitney Houston en ce moment. Quelle vie tragique au travers la célébrité. Mais tu vas nous parler des biopics qui sont en préparation en ce moment.
Oui, c'est en fait un sujet. J'aime bien revenir aux six mois parce que moi, je suis un fan fini de ces films, des fois un peu maladroit. Des fois, le scénario n'est pas à la hauteur de la carrière de l'artiste, mais c'est des films où on prend vraiment des comédiens pour jouer des artistes, des grandes vedettes du rock ou de la pop, et ça change beaucoup. Et là, on annonçait que les tournages vont reprendre éventuellement, et donc il y a des projets de films qui vont peut-être voir le jour enfin. Il y avait des sorties de films qui étaient prévues, et là, ça va reprendre éventuellement. Moi, c'est un style, comme je l'ai dit, je plaide coupable, je regarde même les mauvais films, d'artistes que je n'aime pas tant que ça, mais j'aime voir le traitement. Il y a eu des séries télé aussi, pas très réussies sur des artistes, mais il y en a des très bonnes, donc faut trouver là-dedans là, les perles. Pour ce qui s'en vient, premier film, un artiste que je ne connaissais pas, Jeremy Kemp, mais j'en parle parce que c'est Archie dans Riverdale qui va l'incarner, c'est KJ Rapper. Il va jouer le rôle de Jeremy Kemp, qui est un chanteur chrétien américain, qui a, semble-t-il, un certain retentissement aux États-Unis. Et je me suis dit, OK, je vais écouter qu'est-ce qu'il fait pour voir, donner un peu une idée. Alors, on va écouter la pièce « I Still Believe ».
Pas mauvais?
Ben non, c'est pas mauvais.
Si vous n'êtes pas converti après ça, mais. Mais je suis curieux un peu parce que Jeremy Kemp, c'est pas ce qu'on appelle un born again Christian là, qui a découvert Dieu à 40 ans après une vie de débauche. Non, ses parents étaient pasteurs. Lui, il a étudié en théologie, mais il était musicien. Donc, je sais pas, ça va être quoi un peu la quête du film. Et ça s'appelle I Still Believe, comme la chanson vient d'entendre. Le prochain, il y a eu à peu près 156 films sur lui, c'est Elvis Presley. Il y a déjà eu des séries télé, même. Et là, on se penche spécialement sur la relation entre Elvis et son fameux gérant, le colonel Parker, qui était l'idole de René Angélil. René Angélil a eu l'occasion, d'ailleurs, de le rencontrer. Et c'est Tom Hanks qui va jouer le colonel Parker. Parce que le film, je dis que c'est un film sur Elvis, mais il y a vraiment deux personnages principaux. Ça va être vraiment son gérant, qui est un peu un control freak, qui avait la main mise sur à peu près tout ce qu'Elvis faisait. Et le rôle d'Elvis va être tenu par Austin Butler. Donc, à surveiller. Le prochain, c'est peut-être mon celui que j'attends avec le plus d'impatience, c'est un film sur Bob Dylan. Parce que Bob Dylan, en 65, il a décidé d'électrifier son son et tout ça. Et il a eu, pendant presque un an, à affronter les cris des spectateurs mécontents. Parce qu'on le connaissait, on l'appréciait beaucoup comme chanteur folk qui s'accompagnait à l'harmonica et tout ça. Puis, à un moment donné, dans un festival à Manchester, quelqu'un a crié « Judas », like « Judas ». Donc, c'en était fait pour lui, et le film se concentre sur cette période précise-là. Et moi, je trouve que les films les mieux réussis, c'est ceux qui se concentrent dans ce style-là de biopic, c'est ceux qui se concentrent sur un moment, la
absolument,
carrière de quelqu'un.
Un peu comme sinon, on escamote trop de pans d'une vie quand on veut tout mettre à l'intérieur d'un film, là.
Et c'est pour ça qu'on retrouve ça, les mêmes patterns dans le scénario, quand on couvre 50 ans de carrière, on voit le chanteur ou le musicien là, qui est pour rentrer sur scène, celui qui crie de la foule, mais là, il se revoit à 7-8 ans quand son père voulait pas qu'il fasse carrière. Des choses comme ça, on en voit moins dans des films qui se concentrent sur une période précise. Donc, le film sur Bob Dylan, ça promet quand même. Aretha Franklin, ça devrait sortir le 9 octobre, c'est fini de tourner, et c'est Jennifer Hudson qui va jouer Aretha Franklin, et c'est Aretha Franklin elle-même qui avait donné les droits à condition que Jennifer Hudson l'incarne au grand écran. Donc, ça promet, et c'est drôle, parce que Aretha Franklin, Il y a un autre film sur sa carrière, mais c'est produit par National Geographic, qui se met à faire des biopics maintenant, mais pas juste sur des chanteurs. Et c'est Cynthia Erivo qui va jouer le rôle de la chanteuse. Et parenthèse ici, là, ils vont aussi faire un film sur Pablo Picasso avec Antonio Banderas. Bon, je sais que je sors un peu de la musique, mais je voulais parler d'Antonio Banderas. Michael Jackson, le même producteur qui a donné Bohemian Rhapsody, a décidé de revenir sur la carrière de Michael Jackson. Là, il n'y a rien tourné. Et j'ai l'impression qu'avec toute la controverse qui a suivi le documentaire Neverland, il y a encore des trucs là, très techniques avec les avocats qui vont se dérouler dans les mois à venir. Donc, il n'y a pas de.
Et je pose une question qui peut sembler stupide, mais qui va assurément s'imposer. Là. Est-ce que tu fais appel à deux acteurs pour jouer Michael Jackson à l'âge adulte ou tu fais-tu un white face ou un black face? Ou tu dis, ben, c'est pas grave, il se ressemblera pas.
Oh, ça, c'est
parce que c'est pas juste quand il était jeune. Au début de sa vie adulte, il avait la peau très foncée, puis pour toutes sortes de raisons qui ont fait l'objet de tellement de rumeurs, puis finalement, bon, c'était une maladie de peau. il était plus blanc que nous autres, là, à la fin de sa vie. Donc, tu fais-tu un white face, un black face, deux acteurs, une inexactitude au niveau de la ressemblance?
Méchante question, là. Pour les maquilleurs, les costumiers, c'est à voir, mais c'est effectivement la question, je suppose.
en post-production, là, en effet visuel, on est capable de faire bien des affaires. Non. Ben oui, c'est vrai. Ben là, c'est vrai, Colin. Mon chum travaille sur un film présentement, puis le gars, il est pas chauve, puis il met de chauve sur toutes les scènes.
OK, mettons que tu as absolument raison. Je pense que la sensibilité au concept de blackface, whiteface, s'appliquerait même en post-prod.
Oui, mais tu sais... On dirait qu'il n'y a comme pas de bonne réponse à ce qu'il faudrait faire. Il n'y a rien qui finit par être
juste
correct.
Juste pour ça, le projet va avorter, je pense.
Hey, le film est plus controversé que j'imaginais. un autre film, peut-être moins controversé, on ne sait pas, c'est un film sur les Bee Gees. C'est ça qu'on a beaucoup entendu sur la trame sonore de... Exactement, la pièce du samedi soir. Mais ils ont commencé dès 58 en Australie à faire des shows un peu partout. Et c'est encore une fois le même producteur que celui qui a fait Bohemian Rhapsody, c'est Graham King, qui est partout. Là. Il produit des films depuis... Le scénariste de Bohemian Rhapsody et le producteur depuis les Oscars là, sont en demande partout, ça n'a aucun bon sens. Le prochain, c'est un Québécois qui va réaliser l'histoire de John Lennon et Yoko Ono. C'est Jean-Marc Vallée. Et ça m'avait intrigué, j'ai commencé à fouiller là-dessus. Il dit que c'est très difficile pour lui. Il y avait un article dans le Journal de Montréal. C'est très difficile parce que tout le monde s'opposait à leur relation. Beaucoup de gens n'aiment pas Yoko Ono. Et semble-t-il que son travail avec le film, c'est de montrer une autre facette. Pas nécessairement de la rendre populaire, mais de faire en sorte qu'on voit autre chose que la fille qui a séparé les Beatles, supposément, et tout ça. Et puis, il a profité d'ailleurs du confinement pour reperfectionner le scénario. Parce qu'encore une fois, le scénario, le premier draft, qu'on dit, le premier jet du scénario, était fait par le même scénariste que celui qui a fait Bohemian Rhapsody. Donc, on s'en sort jamais. Mais c'est Jean-Marc Vallée qui a mis la touche au scénario.
Wow.
Amy Winehouse, ça, c'est tabletté depuis longtemps. Ça aboutit pas beaucoup, mais de temps en temps, il y a une percée. Il n'y a aucun tournage de réalisé. C'est les parents d'Amy Winehouse qui ont décidé de coproduire le film sont avec Paramount parce qu'ils veulent montrer eux aussi que leur fille n'était pas qu'une débauchée vivant mille et un excès. Là, ils veulent donner une autre facette de la personnalité et de la carrière d'Amy Winehouse. Mais sinon, rapidement, il y a David Bowie, un film Stardust qui s'en vient. Le fils de David Bowie n'était pas d'accord avec ça, donc ils n'ont même pas eu les droits pour la musique, alors c'est bien mal parti. Céline Dion, on sait que c'est plus ou moins un biopic, c'est Valérie Lemercier qui a écrit, qui a joué et qui a réalisé. Madonna Blonde Ambition, ça aboutit pas trop, mais ça reste sur les tablettes. Whitney Houston et Rod Stewart, lui, il a suggéré le nom de l'acteur qu'il aimerait pour l'interpréter, donc il n'y a même pas de projet, mais je pense qu'il il se voit à la hauteur des Elton John et Queen de ce monde. Et lui, il voudrait l'acteur Riz Ifans, que je ne connaissais pas beaucoup. Je connais sa carrière musicale. Il joue dans Super Furry Animals, mais il joue dans Notting Hill aussi. Donc, Rod Stewart, il a dit la seule chose, il faudrait qu'il fasse de quoi à ses cheveux. Mais il veut cet acteur-là. Donc, s'il y a des producteurs qui nous écoutent, sachez que Rod Stewart est prêt à ce qu'on fasse un film sur sa vie et sa carrière. Il est quand même assez bien rempli, là.
Il lève la main. Tu as mentionné Céline Dion, mais au Québec, là, bon, dans les dernières années, je pense à quoi? Il y a Alice Robbie. On dirait qu'on est moins porté à faire ça. Est-ce que c'est un traumatisme de la série sur Félix Leclerc avec la perruque de Daniel Lavoie qui fait en sorte que plus personne ne veut s'embarquer là-dedans, tu penses?
Je sais pas, mais c'est toujours très risqué. Je sais pas si t'avais vu la série sur Harmonium.
Il y avait Harmonium. Non, je l'ai pas vu.
Difficile. Ça, c'était dur, ça aussi. Mais sinon, Jerry, il y a eu quand même...
La Bolduc.
La Bolduc, d'été à travers les brumes. C'est ça, il y en a qui ressortent, mais je pense peut-être les coups, on cherche la bonne, le bon artiste pour attirer du monde. C'est vrai que c'est pas un genre qui est aussi... exploité au Québec qu'ailleurs, mais c'est à voir. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui feraient...
Qui ont choisi? Mettons ensemble, qui ont choisi?
Est-ce que pour faire un bon biopic, ça en prend un qui a une histoire un peu douteuse?
Ben, probablement Éric Lapointe, ce serait pas...
j'ai vraiment pensé à ça, mais il faudra attendre un petit peu, parce qu'il y a des développements en cours, fait que...
Jean-Pierre Ferland serait pas plate non plus.
Ouais.
Non, pas du tout.
Hey, imagine un documentaire sur PAG.
France Castel, Daniel Ouimet.
Ouais.
Moi, Corbeau, pour ma part, c'est mon projet personnel. Je veux faire le scénario de Corbeau. En fait, la carrière de Marjo, mais avant sa carrière solo. Donc, je me réserve du temps pour ça. Je mets ça sur la pile de mes projets qui n'ont pas fini. Fait que, voilà.
Un Claude Dubois. Non,
ah oui, Claude Dubois, effectivement.
Vous
rappelez ça, bientôt la Dubois Story.
La scène de Claude Dubois en train de se clencher une bouteille de rosé au complet, une bouteille de vin blanc à Québec, puis qui embarque avec ses enfants dans l'auto, puis qui est bien insulté que quelqu'un a dit à la police, hey, il est chaud comme un ballon.
Tu sais, la scène où c'est destiné pour la vaccin de la chaîne. Hein?
Ce moment-là,
ça existe encore.
Beaucoup de bons moments, je pense, dans le biopic.
Quand même. Il y a
Michel Richard. Michel Richard. La scène d'hôtel, puis tout.
Avec Michel Richard, ça date même. Tant qu'elle suivait son père dans les spectacles dans les années 50, elle chantait déjà, elle n'était pas une adulte. Il y avait beaucoup de choses à retracer, là, quand même.
Hey, j'ai même un concept pour le biopic de Michel Richard. Des fois, tu vas voir ça dans un film, un procédé artistique où, essentiellement, la même scène va être reprise, mais tu sais, à des époques différentes. Et là, ta voix toujours se faire arrêter sur le bord de la route avec un char différent.
Ah, oh, c'est
chiant. Un
allure
différent, mais toujours le même policier, mais avec un uniforme. Fait que là, tu sais, ta voix tout le temps dans le film. Ça marque.
Ouais.
Ça marque la fin des chapitres, genre, à l'arrête. Le policier qui arrive, un bout de char. Puis...
Ça, c'est un projet de série télé sur Netflix.
J'aime ça vous faire sentir mal un peu. Hey, Steph, merci. C'était un gros plaisir. On se reparle un peu plus tard cette semaine.
À plus tard.
Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines.
Vous écoutez
Franchement dit.
Enfin, Maude, enfin un peu d'espoir pour les amateurs de hockey.
Yay.
Et c'est intéressant parce que, genre, d'en discuter avec notre invité, parce qu'il y a bien des gens qui sont mitigés par rapport à la formule, les critères, etc., du hockey au mois d'août, mais... Moi, je pense que quand ça va repartir, les amateurs de hockey que nous sommes vont embarquer assurément, vont partager la fièvre des séries, d'autant plus que les Canadiens, vont y être. Donc, on va décortiquer tout ça avec notre collègue Louis-Jean de TVA Sports. Salut, Louis!
Salut! Un petit peu de sport dans vos émissions. Il en manquait depuis un certain temps.
Ça fait du bien. Mais écoute, des fois, on essayait de faire des chroniques de sport, mais à un moment donné, on faisait le tour des prévisions. Puis la NBA, puis la MLB. Mais là, on a quelque chose de concret à se mettre sous la dent. Avant qu'on parle des scénarios, dis-moi, je suis curieux, comment tu vis ton confinement? Comment ça se passe de ton côté?
Ça va bien. Ça va quand même bien. J'ai réussi à faire beaucoup d'entrevues. Je travaille de la maison. Des fois, le chien Bear vient... s'immiscer un peu dans mes entrevues, dans mes différents directs que je fais. Mais non, ça se passe quand même assez bien, je dirais. C'est sûr que ça change la routine. On a hâte. Hier, j'étais en onde pour l'émission spéciale, justement, sur le plan de retour là, qui a été annoncé par la Ligue nationale de hockey sur la reprise éventuelle des activités. Il a fallu que je dépoussière mon habit puis je réapprenne comment faire un nœud de cravate. Mais malgré tout, j'ai réussi à m'en sortir.
Oui, oui, puis écoute, moi aussi, ça fait deux mois que je fais de la radio puis de la télé, de mon bureau chez nous, puis ça prend, tu sais, ça prend une certaine adaptation. On est habitué d'une façon de faire, d'avoir une caméra, d'avoir ci, d'avoir ça, mais un coup que tu l'assimiles, que tu l'intègres, ça se fait quand même bien. C'est pas pareil comme la vraie patente, là, mais ça se fait relativement bien quand même.
Exactement. J'ai l'impression qu'on va peut-être adapter, changer la façon de faire certaines choses, mais en tout cas, moi, j'ai été agréablement surpris à quel point on peut vraiment bien se débrouiller, puis on peut quand même sortir et produire du bon contenu malgré tout.
OK. Parlant de s'adapter, de changer les façons de faire, Gary Bettman qui a présenté son plan hier, par rapport à ce qui avait circulé dans les derniers jours, dernières semaines, il n'y a pas eu de grande surprise hier, si je ne me trompe pas, Louis.
Ben, je dirais qu'il y en a quand même quelques-unes, mais c'est sûr qu'on avait beaucoup parlé des 24 équipes en séries éliminatoires. Ça a été confirmé hier par le commissaire Gary Bettman. On attendait des dates, on attendait des moments, même si on sait très, très bien, c'est difficile de vraiment arrêter, de précisément dire à quel moment on va être en mesure de commencer. J'étais surpris de voir, entre autres, qu'on a encore une liste de 10 équipes, de 10 villes, c'est-à-dire qui pourraient recevoir les matchs de la conférence de l'Est et de la conférence de l'Ouest. Mais on n'a toujours pas arrêté ce scénario et c'est parce qu'on veut demeurer flexible. On veut être en mesure de s'ajuster selon l'évolution de la pandémie, là, de la COVID-19 dans les différents marchés. Mais donc, c'est vrai. Hier, on a appris que la saison régulière est terminée. Quoi qu'il y ait encore un bémol, il y a encore un gros point d'interrogation si c'est véritablement terminé. Je me suis entretenu avec le dirigeant de l'Association des joueurs, Donald Fear, hier, et je lui ai posé des questions. Si les séries commencent avec 16 équipes de play-in round, la ronde qualificative, de 3 de 5, dont le Canadien va participer contre les Penguins de Pittsburgh, ben, ça compte pas pour les séries. OK, je comprends ça. Alors, est-ce que les statistiques vont compter vers la saison régulière ou non? Parce que ça peut faire une différence sur des négociations de contrat. Ça peut faire la différence entre un marqueur de 50 buts ou un marqueur de 48 buts comme Alex Ovechkin. Et Fear était là. C'est une bonne question. Il n'y a pas vraiment pensé, ou du moins, on n'est pas rendu là. Autrement dit, il y a beaucoup, beaucoup de négociations qui vont continuer de se faire. C'est loin d'être réglé. Comme dirait Jean Perron, on est loin de la coupe aux lièvres. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ça, c'est indéniable. Mais on a un format bien précis, on a une bonne idée où on s'en va, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et on a encore beaucoup de choses. Il faut convaincre les joueurs de leur faire comprendre que, un, leur santé et leur sécurité, ça va être la priorité. Ils comprennent ça, mais qu'est-ce qui arrive advenant un joueur qui teste positif? Quel impact ça peut avoir? On n'a pas des réponses claires sur ces choses-là, c'est des choses qui sont extrêmement importantes.
Il y a un élément que je voulais éclaircir avec toi, parce que il me semble que j'avais lu des joueurs qui disaient qu'il y avait une espèce d'injustice avec la formule de la ronde de qualification, parce que les équipes du 5e au 12e rang dans les deux associations, dont font partie le Canadien, qui vont faire une ronde de qualification, auraient une espèce d'avantage sur les autres équipes déjà classées, parce qu'il y aurait comme une série 3-5 pour se remettre en forme. Mais là, je lisais ce matin qu'il y aurait pour ces équipes-là un tournoi à la ronde pour déterminer le classement final. Donc ça, est-ce que c'est une modification par rapport à ce qui avait circulé?
Non, et c'est encore pas complètement réglé. Quand on parle des choses qui sont pas réglées, on n'est pas certain si les Bruins de Boston, qui ont la meilleure fiche au moment où on se parle, la saison est terminée, est-ce qu'ils vont conserver leur premier rang jusqu'à la fin, jusqu'à la finale? Ça veut dire qu'il n'y a pas davantage de la glace, alors ça change quoi? Ben, ça peut peut-être changer l'équipe que tu vas affronter au deuxième tour et ces choses-là. C'est là où ça peut devenir un facteur important. Alors, c'est là où il y a un peu une injustice que je peux parfaitement comprendre des équipes, même les Penguins de Pittsburgh quand on y pense. Les Penguins de Pittsburgh ont quand même eu une très, très bonne saison, une très bonne année. Ils vont affronter le Canadien de Montréal. Et le Canadien de Montréal, si on avait complété la saison de façon... on avait pu compléter le calendrier régulier, le Canadien n'était pas en série, on le sait. Alors, Montréal est avantagé. Il y a des clubs comme les Penguins et d'autres équipes qui sont complètement désavantagées. Ça, c'est une portion de la chose. Et l'autre chose, c'est des équipes comme les Bruins de Boston ou les Capitals de Washington ou le Lightning de Tampa Bay ou les Blues de Saint-Louis, qui sont les champions en titre, ont eu une très, très bonne saison. Et eux, ils vont jouer, comme tu le disais, un genre de petit tournoi à la ronde. C'est des petits matchs qui comptent pas vraiment, qui n'ont pas nécessairement une vraie, vraie, vraie importance. Peut-être sur le classement 1 à 2 à 3 à 4, mais essentiellement, il n'y a pas vraiment un esprit compétitif qui existe entre la vie ou la mort. Je fais, si je gagne pas mon 3-5, je suis éliminé. Alors, dans le fond, ce que certaines équipes, comme le Lightning de Tampa Bay, comme d'autres équipes comme ça, qui eux, sont un peu protégées dans la ronde préliminaire, disent, c'est qu'il y a des équipes qui vont se battre, véritablement, parce que s'ils perdent, ils sont éliminés. Et là, on va affronter ces équipes-là qui auront joué des vrais matchs avec une vraie importance. Mais et oui, nous, on aura essentiellement juste joué des matchs pour se préparer puis pour la forme.
OK. Bon, là, ce qui, on ne sait pas encore quand est-ce exactement ça va recommencer, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a des joueurs, j'imagine, là, qui ont hâte de pouvoir se remettre en forme, commencer à pratiquer. Et là, on attendait donc, ville par ville, l'autorisation des différents paliers gouvernementaux pour reprendre l'environnement. Tu avais eu une excellente information hier qui a été confirmée aujourd'hui par rapport à la reprise des activités pour le Canadien de Montréal. Il y a eu le go a été donné ce matin, là.
Oui, exactement. Donc, c'est une des choses qu'on se questionnait, qu'on se demandait, parce qu'on sait à quel point Montréal est durement frappé là, par la COVID-19, mm-hmm, par la pandémie. Il y a des marchés un peu à travers la Ligue nationale également, New York, entre autres, New Jersey. Est-ce qu'ils vont être à mesure de pouvoir rouvrir leur établissement? On parle de pouvoir toujours donner la même chance, une chance égale aux 24 clubs. Et c'est un peu la question qu'on se posait. Montréal va être en mesure de pouvoir commencer à ouvrir son établissement là à Brossard. Dès qu'on va recevoir le feu vert de la Ligue nationale de hockey, le Canadien va pouvoir commencer à s'entraîner. On sait que c'est une phase, la phase 2, qui est sur une base volontaire. Des entraînements, 6 joueurs à la fois sur la glace, aucun entraîneur, distanciation sociale, tout ça. Beaucoup de mesures sanitaires qui sont mises en place pour essayer d'éviter toute chance de propagation ou de contagion. Mais ce ne sera pas nécessairement le cas partout actuellement. La Ligue nationale est là pour dire on est prêt à donner un coup de pouce, à donner un coup de main, trouver des alternatives pour les organisations, les équipes qui ne seraient pas en mesure de pouvoir s'entraîner chez eux. Pour le Canadien, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter de ça. On va être en mesure de pouvoir recommencer. Il y a encore des questions, par contre, en termes de quarantaine. Il y a des joueurs qui vont arriver de l'Europe qui, eux, n'ont pas le choix de se placer en quarantaine. Il y a des joueurs, qui, par exemple, comme Shea Weber et Carey Price, qui sont à Kelowna, en Colombie-Britannique. Est-ce qu'ils vont devoir, eux, se placer en quarantaine? Ça va dépendre. Ça va dépendre du transport en commun ou de la façon dont ils vont se ramener à Montréal. Est-ce qu'ils vont conduire? Si c'est le cas, normalement, tu n'as pas besoin de faire une quarantaine. Si tu te retrouves sur un vol commercial, tu n'auras pas le choix. Il y a des joueurs qui vont prendre des vols nolisés. Alors, c'est tout ça qui vient vraiment, vraiment compliquer toute la patente essentiellement. C'est pour ça que la Ligue nationale dit notre souhait, c'est qu'on ait des camps d'entraînement qui vont débuter dans la première moitié du mois de juillet. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de hockey, que le hockey ne peut pas reprendre avant le mois d'août. J'aurais vraiment de la difficulté là, fin juillet, mais pour moi, ça risque beaucoup plus d'être le mois d'août. Et ça, c'est si on est vraiment, vraiment optimiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un écart extrêmement important, selon moi, entre la phase 2, qui sont des entraînements qui ne sont pas obligatoires, avec beaucoup, beaucoup de mesures de distanciation sociale. Il y a un écart énorme entre la phase 2 et la phase 3, qui sont des camps d'entraînement, où là, il y a un esprit de compétition, parce qu'on veut vraiment se préparer à jouer. Et là, la phase 4, qui est la reprise, qui sont les matchs, phase préliminaire, évidemment, puis par la suite, les séries éliminatoires, les 3-5, 4-7. On sait que les deux dernières rondes, finale de conférence, finale de la Coupe Stanley, ce sera des 4-7. Pour les deux autres rondes, ça, c'est pas encore décidé.
Je suis certain, Louis, qu'il y a des gens qui nous disent « Ben voyons, tu sais, la saison était déjà tellement bien, on arrivait à la fin de la saison, les joueurs étaient en forme, comment se fait-il que ça va prendre autant de temps à relancer? » Mais tu sais, on n'est plus dans les années 70, là, ces gars-là, c'est des machines, c'est des Formule 1, le fine-tuning là, doit être à point, ne serait-ce que pour éviter d'engendrer des blessures. C'est normal que ça va prendre un temps avant de les remettre au niveau acceptable pour jouer des matchs de compétition.
La réalité, c'est qu'un camp d'entraînement normal de nos jours, rendu au troisième jour, tu peux avoir des matchs préparatoires contre d'autres équipes. Ça démontre à quel point la préparation avant, tu le mentionnais, ça n'a rien à voir avec les années 70 et les années 80. Les gars arrivent, ils sont dans une forme incroyable et ils sont prêts à compétitionner. Le problème là, c'est que pour 95% des joueurs qui vont être en mesure de recommencer à s'entraîner, qui vont être en mesure de pouvoir compétitionner, ils n'ont pas eu de glace. Alors ça, c'est un problème énorme. Et il y a un gros pourcentage aussi dans ce groupe-là qui ont été à la maison, qui ont fait du jogging, qui ont fait des push-ups, qui ont fait le genre d'entraînement que toi et moi on fait, des fois avec succès, des fois avec moins de succès, des fois on le fait moins régulièrement aussi. Mais eux, ils sont habitués de s'entraîner de façon tellement poussée que là, quelques petits poids ici et là, c'est pas la même chose. Alors, ouais. C'est pour ça qu'on a demandé un camp d'entraînement qui va durer 3 semaines pour éviter les blessures et parce qu'on veut aussi, on parle beaucoup d'intégrité dans la Ligue nationale de hockey. On veut pas juste donner, puis je sais qu'il y a des gens qui se sont prononcés, qui ont dit la Coupe Stanley de 2019-2020, il va falloir mettre un astérisque à côté. Je suis pas d'accord parce que les conditions sont extrêmes, sont pas difficiles. Et si on réussit à jouer, sincèrement, l'équipe qui va gagner mérite énormément de crédit parce que les défis seront énormes. Alors, moi, je pense que quand on va être en mesure de jouer, on veut s'assurer que, un, on va avoir un bon produit sur la glace. On veut assurer l'intégrité du sport et du championnat également. Ça explique un peu aussi pourquoi on veut s'assurer qu'on leur donne le temps de revenir et d'être à point quand ils vont commencer.
Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, plus j'y pense, plus je me dis, oui, c'est sûr que je vais embarquer. Au début, on disait, c'est quoi la valeur de cette coupe-là, comme tu l'as évoqué. Mais en même temps, à partir du moment que la grande danse va commencer, là, l'intensité des séries, on va avoir l'impression qu'on est dans une situation qui est la même que celle qu'on vit lorsqu'on est en série habituellement. Dis-moi, avant qu'on se laisse, un mot sur l'éventuelle série Canadien-Pingouin. Bon, où on aura assurément le temps de tout décortiquer, de tout analyser. N'empêche que ça arrive pas normalement que autant d'avance, tu sais qui sera ton adversaire, tu vas être capable de l'étudier sous toutes ses facettes. Comment tu entrevois cette série-là? Est-ce que tu partages l'avis de ceux qui disent que, par exemple, Carey Price pourrait faire la différence ou est-ce qu'on lui en met trop sur les épaules? Comment tu vois ça?
Moi, je pense que Canadien facile contre les Penguins de Pittsburgh. Non, écoute, si j'ai à miser, là, si tu me dis mets 5$, là,
j'avais hâte de t'entendre, là.
Je peux pas mettre le Canadien, mais la réalité, c'est que c'est vrai. Je veux dire, premièrement, il y a deux choses. T'as ton capitaine qui, lui, avant le début de la saison, a dit, moi, je veux gagner. Moi, l'âge que j'ai, là, c'est écoute, il m'en reste pas mal moins qu'il m'en restait. Je veux absolument trouver une façon de gagner. Moi, il y a une chose qui compte quand je joue le premier match de la saison, quand je me prépare pendant la saison morte, c'est la Coupe Stanley. Alors, lui, il est hyper motivé. Ça va avoir un impact sur le reste du vestiaire. Ça, je suis convaincu. C'est la même chose pour Carey Price. Et Carey Price est un X-Factor. Il n'y a aucun doute que c'est le genre de joueur. Et je sais que le monde, les journalistes, les gens, les partisans disent, vous autres, là, vous êtes chauvin, puis vous regardez juste le Canadien. C'est faux. C'est faux. Moi, je parle à chaque année, je vais faire la tournée des meilleurs joueurs de la Ligue nationale avant de débuter la saison, et je fais toujours mon petit sondage avec ma petite liste de 10 noms. Et je leur demande qui sont, et c'est anonyme, qui sont les 10 meilleurs joueurs dans la Ligue, attaquants, défenseurs, gardiens de but, garde-toi. À chaque année, le gardien de but qui sort de loin numéro 1, Carey Price. C'est pas Louis-Jean TVA Sport, le petit fan avec son chandail de Carey Price dans sa chambre en se couchant avec son pyjama qui le dit. C'est les meilleurs joueurs de la Ligue qui le disent. Alors, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'un joueur comme Carey Price peut venir jouer dans la tête d'une équipe, surtout dans une situation comme cette année qui est extrême. On ne sait pas à quoi s'attendre. Tu sais quoi, il pourrait aussi être pourri. Il pourrait revenir et il est mauvais. Mais il pourrait aussi revenir et il est dominant. Ouais. Et les joueurs qui sont pas nécessairement en point, ça pourrait être un facteur. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Juste une autre chose que je veux mentionner rapidement par rapport à la saison. On ne sait pas quand les séries vont commencer. On ne sait pas où ils vont être joués non plus. Mais savez-vous quoi? En parlant avec le commissaire hier, il précisait lorsque j'ai demandé « Est-ce que vous allez commencer la prochaine saison sans des partisans? » Il m'a dit « Il n'y a rien de magique à jouer au mois d'octobre, novembre, décembre. » Autrement dit, c'est possible que la prochaine saison 2020-2021 ne débute qu'au mois de janvier prochain. Ça nous démontre à quel point il n'y a pas de presse, là. Il n'y a personne qui est stressé pour essayer de compléter la saison actuellement.
Ça va être à suivre. J'ai vraiment, vraiment hâte de réentendre une description, l'analyse, les faits saillants d'une partie. Mais en attendant, Louis, on continue de vous suivre à TVA Sport et sur les autres plateformes TVA, LCN. Vous avez su vous réinventer, être imaginatif. Je vous lève mon chapeau. C'est toujours un plaisir de te parler.
Je vous renvoie l'appareil. Vous aussi, vous faites tout un travail dans des circonstances qui sont pas évidentes. Puis c'est pas mal plus important ce que vous faites que nous autres parler de sport. Alors, lâchez pas. Puis merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Ah, mais le divertissement est tellement important. On a hâte que ça revienne. Merci, Louis. À bientôt.
Salut bien. Bye-bye.
Salut bien.
Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
Cube Radio.
Check bien ça, le segment éclair. On va faire le tour de la question, toi et moi, Maud, ensemble. La semaine de 4 jours pour relancer l'économie du Québec, le tourisme. Pour ou contre?
pour. Là, OK, dis-nous une semaine de 4 jours. Je veux dire, j'aime ma job, mais.
Okay.
Mais une petite fin de semaine de 3 jours, là. T'as le temps d'en faire des affaires pendant une fin de semaine de 3 jours, là.
Ben, c'est ça. Ben,
des congés fériés, ça fait du bien, puis t'es reposé. Fait, imagine.
Les gens voyageraient plus.
Ben, tu sais, au début, tu le prends pour te reposer, puis après ça, là, ta-ta-ta, tu te clenches des grosses fins de semaine.
Moi, bon là, plan, je n'haïs pas l'idée. Sais-tu quoi? Si on veut relancer le tourisme avec la semaine de 4 jours, c'est juste qu'il faudrait aller voir les entreprises. Tu sais, qu'eux autres doivent fournir du matériel, ouais, doivent être productifs. Ça, oui. Parce qu'il faudrait que tu fasses ta semaine de 5 jours à l'intérieur de 4 jours, donc augmenter tes heures.
Pas mais sûr, est-ce ça que, se fait, mais...
Est-ce qu'on serait capable de faire ça sans ralentir l'économie, la productivité du Québec?
Encore plus.
Alors qu'on doit, oui, relancer le tourisme, mais relancer l'économie. Moi, j'aimerais ça, là. Je trouve que c'est une super belle idée, la semaine de 4 jours. Je doute juste du réalisme de la chose, particulièrement en ce moment. Bref.
Puis je me rendrai pas jusqu'en Gaspésie en 3 jours. Ça, ça se fera pas.
À partir de Québec, oui. Je
ben, à partir de Québec, mais je veux dire à partir de Montréal. Là, c'est,
de Montréal, ouais,
c'est une bonne trotte, moi, de dire.
Voilà. Donc, on verra si ce débat-là, cette discussion-là va se poursuivre. C'est déjà tout pour nous. Un gros merci à toute l'équipe. Sophie Durocher qui s'en vient. Nous, on vous donne rendez-vous demain à 10h. Salut!